Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. 4h57, c'est parti. Bon réveil, le 5-7 démarre. On est mardi 22 septembre. Je vous souhaite la bienvenue sur Europe 1. On va se réveiller tranquillement ensemble jusqu'à 7h avec l'équipe au complet ce matin. Bonjour Amblin Roche.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et je salue aussi Paul Lassen qui est de retour.
Bonjour Sébastien, bonjour Amblin, bonjour à tous.
Bonjour.
Tout va bien ?
Très bien.
En pleine forme ?
En pleine forme, comme d'habitude.
Paul, le débat fait rage avec, autour des tenues correctes exigées à l'école, et tout cela à cause de cette mode là, de ce t-shirt au-dessus du
nombril. Oui, le crop top.
Voilà.
Et
le crop top, c'est le mot que j'ai appris la semaine dernière.
Ouais,
et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est engouffré dans la brèche hier. Lui a parlé d'une volonté de tenue républicaine. Et après les élèves qui se sont déchaînés la semaine dernière, c'est aux profs de se rebeller contre le ministre. Je vous dirai ça dans un peu moins d'une heure.
Je ne sais pas ce que c'est une tenue républicaine, mais ça demande encore quelques explications. On en reparle tout à l'heure à 5h45, les réseaux sociaux avec Paul Lassen. Omblin, qu'est-ce qu'on écoute ce matin?
Connaissez-vous Jeanne et Marcel Planche, deux personnages incontournables de la vie de Georges Brassens? C'est chez eux qu'ils se cachent lorsqu'ils décident de ne pas retourner en Allemagne et de déserter le service du travail obligatoire en 1944.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid.
L'Auvergnat, c'est Marcel Planche.
D'accord. Georges Brassens dans la partition d'Amblin Roche ce matin, le récit tout à l'heure. À 6h10, à tout à l'heure, Amblin et Brassens, il en sera aussi question avec mon invité inattendu ce matin, tout à l'heure à 6h15. D'ailleurs, il nous a promis de chanter du Brassens, cet invité inattendu. Alors, il n'est pas chanteur du tout, il est journaliste sportif, vous le connaissez comme intervieweur sur France Télévisions, vous savez, il interviewe les joueurs de tennis à Roland-Garros dans toutes les langues. Vous le voyez, ça y est, vous l'avez ? Bon, vous verrez. 6h15, l'invité inattendu du 5-7. L'actualité ce matin, c'est toujours l'inquiétude autour de l'épidémie. Le virus circule de plus en plus. Les autorités cherchent toujours la solution face à l'engorgement des laboratoires. Mon invité, ce matin, propose une solution radicale. Abandonner tous les prélèvements qui ont plus de 4 jours, trop tard, pour se concentrer sur l'urgence, sur les tout derniers. Jean-Claude Azoulay, du syndicat national des médecins biologistes, est avec nous à 6h40. Et puis d'ici là, on va écouter nos mentalités échanger avec Édouard Le Cerf de l'Institut BVA, auteur d'un sondage qu'Europe 1 vous révèle ce matin sur le rapport des Français à l'urgence climatique. Et vous verrez que la crise Covid fait évoluer les esprits. De plus en plus d'entre vous sont prêts à faire des efforts pour le climat, y compris des efforts sur leur pouvoir d'achat. Tous les détails tout à l'heure avec Édouard Le Cerf à 5h40. Voilà pour le programme ce matin. Bonjour Laurent Cabrol.
Eh bien bonjour à tous. Bonjour à vous Sébastien. Oui, c'est une journée qui ressemblera, ma foi, très sensiblement à celle d'hier. Nous aurons les nuages aux mêmes endroits, avec les averses aux mêmes endroits et les orages également, c'est-à-dire sur une grande moitié sud. Et puis nous aurons du soleil, là où hier nous avons eu du soleil. Voilà, tout simplement, c'est aussi bête que cela, avec des températures en légère baisse tout de même. Oh, pas une baisse énorme, mais enfin, nous perdons un petit degré, entre 21 et 27 degrés.
Voilà, une météo pas très compliquée. On détaille tout ça avec vous, Laurent, tout à l'heure, juste avant 5h30. À tout à l'heure.
Europe Matin,
le 5-7.
Sébastien Krebs.
La journée démarre, bon réveil à vous tous, on est ensemble pour écouter le monde changer. Votre premier journal de cette matinée, c'est avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h.
Était au vert et quand ils se sont aperçus que nous étions dans l'événementiel, on nous a dit jamais de crédit pour vous, messieurs, dames.
Une discrimination dans l'accès au crédit immobilier pour ceux dont la profession est jugée plus exposée économiquement aux risques sanitaires. Explication dans un instant. Nous évoquerons d'abord cette possible affaire de dopage, perquisition et garde à vue autour de l'équipe Arkea Samsic qui participait au Tour de France. Et puis, quelle est la recette du meilleur burger possible? Le champion de France de la discipline qui vient d'être sacré nous donnera la sienne.
À suivre, votre journal des sports et notre pressing du matin. Et puis, les doigts dans l'assiette avec notre bande d'agriculteurs ce matin. Nous allons dans l'Aude, chez notre éleveuse. Bienvenue à vous tous, 5h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'ombre du dopage plane donc à nouveau sur le Tour de France cycliste. Face aux performances surprenantes de certains coureurs, des soupçons sont réapparus. Ce matin, on ne parle plus simplement de doute, mais d'une enquête judiciaire qui est en cours. Deux suspects ont été placés en garde à vue. L'équipe en cause est la formation française Arkea Samsic, pour laquelle roule le Colombien Nairo Quintana. En pleine compétition, des produits et du matériel suspects ont été retrouvés par les enquêteurs, Guillaume Biais.
Oui, c'est lors d'une perquisition menée dans les Alpes mercredi dernier que les enquêteurs ont saisi des médicaments, du matériel médical et surtout ce que la procureure de Marseille appelle une méthode pouvant être qualifiée de dopante, sans plus de précision. C'est à l'occasion de l'arrivée d'étape à Méribel en Savoie que les gendarmes ont fouillé l'hôtel et les véhicules de l'équipe française Arkea Samsic. Dans leur collimateur, le leader de l'équipe, le Colombien Nairo Quintana, son frère d'ailleurs, ainsi que les soigneurs de la formation bretonne. Mais l'affaire ne s'est pas ébruitée, les coureurs ont terminé le tour. C'est hier, au lendemain de l'arrivée finale, que les enquêteurs ont placé en garde à vue deux membres du staff médical, tandis que les frères Quintana, respectivement 17e et 95e de l'épreuve, ont été entendus librement. L'enquête préliminaire du pôle santé de Marseille vise clairement des soupçons de dopage, à savoir administration, transport, détention et aide à l'usage de substances interdites aux sportifs. Enquête confiée aux gendarmes spécialisés de l'OCLAESP, c'est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.
Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. On nous dit que c'est encore le bon moment d'investir dans la pierre. Les taux d'intérêt pour un achat immobilier ont à nouveau baissé au mois d'août.
Mais ce matin, on s'arrête sur ces profils retoqués par les banques. Marion Gauthier, il s'agit de personnes dont le métier est économiquement fragile. Fragilisé par la crise sanitaire.
Oui, c'est ce qu'a reconnu Michel Mathieu, directeur général de LCL sur l'antenne d'Europe 1. Pour certains, c'est effectivement plus compliqué d'obtenir un prêt immobilier.
Il y a des secteurs qui souffrent, les transports souffrent, tout ce qui est événementiel souffre beaucoup aussi. Donc évidemment, on n'est plus regardant sur ce type de dossier.
Des dossiers comme celui de François Chou, maître d'hôtel, avec son épouse et un ami, eux aussi dans l'événementiel. Ils devaient acheter un terrain en Corse et y faire construire une maison. Ils ont été victimes du durcissement des conditions de crédit.
Tous les signaux étaient au vert et quand ils se sont aperçus que nous étions dans l'événementiel, on nous a dit « jamais de crédit pour vous, messieurs, dames ». On n'est pas des gens opulents ni qui sont extrêmement riches. On avait fait beaucoup d'économies pour en arriver là. On avait redimensionné complètement la maison, on l'avait entièrement dessinée avec le promoteur. On ne dormait que sur ce projet-là. C'était la concrétisation d'une vie et on nous a volé une forme de rêve.
Et après un été où son activité a été divisée par 10, difficile de faire de nouveaux projets. C'est en partie pour cette raison que le taux de refus de prêts immobiliers a fortement progressé au mois d'août pour concerner un dossier sur 10. Malgré tout, les conditions d'octroi de crédit immobilier restent encore aujourd'hui très favorables pour les meilleurs dossiers.
Marion Gauthier pour Europe 1. Le coronavirus qui fait en ce moment un millier de morts par jour aux États-Unis, c'est proportionnellement 4 fois plus qu'en Europe. 199 000 décès sont recensés depuis le début outre-Atlantique. Tandis que dans toute l'Angleterre, cette fois, les bars devraient fermer à 22h à partir de jeudi soir et ne permettre que le service à table.
On en reparlera dans notre revue de presse internationale tout à l'heure, juste avant 7h. Plus de 5 ans après l'attaque de Charlie Hebdo et en plein procès des attentats de janvier 2015, la directrice des ressources humaines du journal Marie Cabrette est obligée d'abandonner son domicile.
Et ce, en raison de menaces précises et circonstanciées reçues la semaine dernière par les officiers de sécurité qui la protègent. Elle était hier soir sous le choc, jointe par Romain Hoquet pour Europe 1.
Ça a été extrêmement violent. Pour moi. Mes officiers de sécurité m'ont annoncé que j'avais 10 minutes pour monter chez moi et pour faire un sac et pour partir de mon domicile parce qu'ils ne pouvaient pas assurer ma sécurité le soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en arrive à ce que je ne puisse plus dormir tranquillement chez moi. Je suis plutôt en rage, je suis plutôt en colère. Je me refuse à avoir peur, je me refuse à me taire. Surtout, il est hors de question que je me taise. Parce que ce qui m'arrive aujourd'hui peut arriver à n'importe qui demain et parce que le climat de haine qu'il y a, et notamment autour de ce journal et qui est invraisemblable, n'a jamais cessé. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons dans un blocus. Personne ne sait où on travaille. Il y a des portes blindées, des vitres blindées partout, des agents de sécurité partout et que la liberté d'expression ne mérite pas ça.
Marie Cabrette qui sera l'invitée du tête-à-tête de Mathieu Béliard à 7h40 en direct sur Europe 1.
Le gouvernement demande une contre-expertise sur les raisons qui ont poussé Bridgestone à annoncer la fermeture de son usine de Béthune dans le Pas-de-Calais.
Même si le groupe japonais n'a pas renoncé à la fermeture de son site qui emploie 863 personnes, il se dit prêt à étudier des scénarios alternatifs pour l'usine. On ne sait pas encore précisément ce que cela recouvre, mais après cette journée de concertation, les salariés ont repris un peu espoir. Sur place, pour Europe 1, Lionel Gougelot.
Bien sûr, Bridgestone continue de penser que la fermeture de son usine de Béthune est la seule façon pour le groupe de rester compétitif en Europe, mais les dirigeants semblent vouloir maintenant laisser la porte entrouverte au dialogue, à la recherche de solutions industrielles pour le site, un espoir auquel s'accrochent les salariés.
Au départ, ils ne voulaient pas avoir de discussion, c'était on ferme, point barre. Là, je pense que la mobilisation de tous les élus du gouvernement a fait qu'ils vont peut-être revoir leur copie.
Bien sûr qu'on veut y croire, moi ça fait 27 ans que je travaille là, mon père il a travaillé là, nous on veut encore y croire. Mais il faut mettre de l'investissement, il faut nous les laisser travailler.
Nous le but c'est pas donner de faux espoirs, mais dire pour l'instant ça avance dans le bon sens.
Les salariés vont devoir attendre encore 2 ou 3 semaines pour connaître les véritables intentions de Bridgestone, mais attention, la tension monte et pas question de se laisser mener en bateau, disent les syndicats.
On cassera pas les machines, on continuera l'activité, après si on doit allumer le feu, c'est nous qu'on allumera le feu, et c'est nous qu'on appellera les gens.
Là il y a la tristesse, c'est les premiers jours, mais après il y aura la colère des salariés. Mais sachez que ça, on ne pourra pas le retenir. Et on ne retiendra même pas, ça je vous le dis. Et s'il y aura le feu, ben, il y aura le feu, je vous le garantis.
Des syndicats qui disent observer de graves situations de détresse parmi les ouvriers. Et selon eux, ce ne sont pas les 2 psychologues mandatés par la direction qui y changent quoi que ce soit. Béthune, Lionel Gougelot, Europe 1.
La politique avec Marine Le Pen qui parle protection animale. La présidente du Rassemblement National était dans Lyon hier en visite dans un refuge pour animaux où des chevaux ont été mutilés en août. Le propriétaire lui-même s'était fait agresser en essayant d'intervenir. Le reportage de Claudia Bertram.
Voilà. Toute belle.
Dans l'enclos, Marine Le Pen caresse Biscotte. Le poney a une longue cicatrice sur le flanc. Aux côtés du propriétaire, lui-même blessé au bras, la présidente du RN veut exprimer sa compassion envers ceux qui font face à cette vague de mutilation.
Je sais l'angoisse qui les étreint, je sais la souffrance qui est la leur, ainsi que celle évidemment de leurs bêtes qui sont mutilées. Je sais aussi que les pouvoirs publics font le nécessaire pour tenter de mettre fin à cette épouvante, hein, qui frappe, qui heurte, qui choque.
Marine Le Pen fait le tour du ranch, s'attendrit devant les animaux. Elle n'est pas là pour parler de son thème fétiche, la sécurité, mais bien de protection animale. Et elle veut même rassembler autour de ce thème.
C'est vraiment un des sujets qui pourrait permettre, au-delà de toutes les étiquettes partisanes, de se mettre autour d'une table pour en discuter. Le RN a toujours été prêt à travailler avec d'autres mouvements.
Une discussion qu'elle veut engager avec tout le monde, vétérinaires, associations, agriculteurs et chasseurs. En mettant l'accent sur le sujet très consensuel de la protection animale, Marine Le Pen espère relancer sa rentrée en demi-teinte. Villefranche-Saint-Phal, Claudia Bertram, Europe 1.
3,74 millions de kilomètres carrés de banquise. Cela nous paraît énorme, mais c'est en fait le deuxième niveau le plus bas jamais enregistré. Le relevé a été fait le 15 septembre et ce niveau s'inscrit dans la lignée du déclin observé depuis 4 décennies selon la NASA. Nous nous dirigeons vers un océan arctique sans glace saisonnière selon le directeur du National Snow and Ice Center aux États-Unis.
Justement, si je vous dis hamburger, vous pensez forcément aux États-Unis. Bien, vous n'aviez que partiellement raison parce qu'on en trouve aujourd'hui dans 80% des restaurants français, selon une étude de Gira Conseil.
Et hier, figurez-vous que la finale de la Coupe de France du burger avait lieu à Paris. On était loin du simple steak cheddar entre 2 tranches de pain. Le gagnant s'appelle Samuel Bénard. Il a son restaurant à Tarnos dans les Landes. Voici sa recette de ce qui est donc désormais le meilleur burger de France.
Le burger s'appelle le bœuf qui rit. Kiri RIS pour le riz de veau. C'est un burger avec un bun au levain de seigle et du malt d'orge en croûte de vieux comté. Des riz de veau panés, puis frits à la plancha. Autrement, un steak de bœuf. Du sel de champignon traditionnel. Tranche de vieux comté affinée 30 mois. Un mesclin de salade. Et puis surtout, la sauce gribiche qui vient relever tout ça. Une sauce assez vinaigrée, moutardée. Les capres, les cornichons, voilà quoi. Bah, c'était vraiment un pari dès la présentation de la recette. Alors c'est quand même assez technique, c'est vrai que c'est un burger, je pense, de cuisinier. Et je pense que ça aussi fait partie des raisons pour laquelle ça a payé aujourd'hui.
Le champion de France de burger, Samuel Bénard, ce matin.
Je suis sur la photo. Hein. Allez, il est énorme. Il faut avoir faim, mais c'est vrai que ça donne envie. Le journal de 5h signé François Geffrier. Merci François.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Vous n'y avez pas droit au burger parce que vous êtes sportif.
À la sauce grébiche, là, je fais une entorse.
5h10, le journal des sports avec d'abord les soupçons de dopage sur le Tour de France. Comment ça réagit dans le peloton?
La direction de l'équipe concernée assure tomber des nues. Il s'agit, on le disait dans le journal d'Arkea Samsic, d'une équipe française. Celle du Colombien Star Neiro Quintana, enquête ouverte par le procureur du pôle santé publique de Marseille. 2 personnes en garde à vue. Elles sont issues du milieu médical et ne sont pas des cadres de l'équipe. Le peloton du Tour de France n'avait plus connu d'affaires notables de soupçons de dopage depuis 2012. Mais cette année, les performances également du Slovène Victorio Tadej Pogacar ont aussi interloqué plusieurs observateurs, parmi lesquels Antoine Vaillé, ancien entraîneur de l'équipe Festina en 1998 et contributeur du blog ChronoWatt, dans lequel il dénonce régulièrement le dopage.
Quintana est inquiété. Je pense que ses performances sont surnaturelles et sont issues, on va dire, pas que de l'entraînement. Et je pense que celle de Pogacar aussi. Moi, ce que je juge, ce sont que des performances trop hors normes. C'est comme si vous voyez à la télé un coureur de 100 mètres qui fait 9,5. Tout le monde se poserait des questions et je pense qu'on aurait des réponses un peu plus tard avec de l'investigation. Et c'est ce qui se passe un petit peu pour Quintana.
À Antoine Vaillé, joint pour Europe 1 par Axel May. Et pour l'heure, pas de réaction des organisateurs du Tour de France.
Le foot et le résultat du matin, c'est de la Ligue 2.
Oui, le derby pour Auxerre. Les Auxerrois battent les Troyens 2-1 en clôture de la quatrième journée. Moins de 70 km à vol d'oiseau entre les deux villes. Auxerre 11e ce matin, les Troyens sont 7e. Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, doit être entendu aujourd'hui par la brigade de répression de la délinquance économique. C'est une enquête ouverte par le parquet national financier en 2017 au centre des investigations. Simon Rubin, les liens entre Bernard Laporte et l'homme d'affaires Moed Altrade, président du club de Montpellier et principal soutien financier de la fédération.
Oui, le parquet national financier s'interroge sur la relation entre Bernard Laporte et Moed Altrade. Altrade, devenu peu de temps après l'élection de Laporte à la tête de la FFR, le sponsor maillot du 15 de France. Dans quelles conditions ce sponsoring a-t-il été attribué? Est-ce que les liens entre Laporte et Altrade ont pesé dans ce choix? Voilà quelques-unes des questions que se pose le PNF. Et puis parallèlement, la brigade financière pourrait entendre Claude Haché, patron de l'organisation du Mondial 2023 en France. Et là, les questions pourraient tourner autour des conditions d'attribution et de gestion du projet mondial 2023.
Et l'avocat de Bernard Laporte dénonce, je cite, une ingérence dans la campagne pour la présidence de la Fédération française, scrutin prévu le 3 octobre. L'ancien secrétaire d'État est candidat à un nouveau mandat de 4 ans.
Le chiffre du jour.
900 tests PCR ont été pratiqués depuis jeudi dernier à Roland-Garros, joueuse, joueur, entourage. Conséquence, 6 participants exclus des qualifications qui ont démarré hier. 5 messieurs avant-hier, on vous en avait parlé, et une dame hier. Avant même leurs entrées en compétition, les matchs du tournoi principal démarrent dimanche.
Merci Jérôme Lacroix. On vous retrouve pour la France Bouge dans une petite demi-heure. À tout à l'heure.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
5h14, les courses et le pari gagnant du jour de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil. Et mon pari gagnant sera le 309, Anita Duberlet. Après 2 sorties honorables sur les haies, cette pouliche, née pour sauter, n'a pas raté ses débuts en steeplechase le 29 août à Dieppe en s'imposant avec la manière. Allante et visiblement douée pour franchir les gros obstacles, le profil de l'hippodrome d'Auteuil ne pourra que favoriser ses aptitudes. Dès lors, malgré la présence de quelques mâles ambitieux cet après-midi, elle devrait pouvoir ici doubler la mise. Notez bien, pour Auteuil, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 9, Anita Duberlet.
C'est noté Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
Il est 5h15 sur Europe 1, l'heure d'ouvrir notre pressing du matin. Les histoires qui nous ont marqués dans la presse. On bline avec vous, on va parler de l'école.
Oui, vous vous rappelez peut-être ce test sur carnet bleu que vous avez passé lors de votre entrée en 6e. Il y en a maintenant CP, CE1 et seconde. Des évaluations nationales qui font débat, sont-elles utiles pour, contre?
On verra, on va se faire notre avis. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h17 sur Europe 1. Un Français sur trois est prêt à consacrer un peu de son budget à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un sondage BVA Nexans qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. 85% des Français se disent favorables à l'installation de champs de panneaux solaires, par exemple. On va en reparler avec le patron de l'Institut BVA, Edouard Le Cerf, à 5h40. Bureau exécutif tendu hier soir à La République En Marche après le départ de son numéro 2, Pierre Person. La députée Aurore Berger démissionne de son poste de porte-parole porte-parole du parti présidentiel. Les échantillons d'eau usée analysés dans une soixantaine de stations d'épuration montrent un niveau d'infection de la population équivalent à celui de début mars. C'est un chiffre qui interpelle, on en reparlera dans le journal de 5h30. Et puis la chaîne française M6, désormais interdite en Algérie après la diffusion d'un documentaire. Les autorités algériennes lui reprochent une vision biaisée sur le Hirak, ce mouvement de protestation populaire.
Europe 1.
C'est parti pour le pressing du jour avec Amblin Roche et Paul Lassen. D'abord un coup d'œil aux unes des journaux ce matin avec toujours le Covid qui inquiète un peu partout en France. Ça se durcit à Lyon, c'est la une du Progrès avec de nouvelles mesures décidées, rassemblements limités, nouvelles restrictions aussi dans la Marne, à la une de l'Union à Reims et des signaux inquiétants annoncés par le Républicain Lorrain. La stratégie fluctue, pointe les dernières nouvelles d'Alsace avec d'un côté ces restrictions et de l'autre le protocole qui se retrouve allégé dans les écoles. Les règles s'assouplissent, titre La Voix du Nord. Nice Matin s'inquiète pour les soignants, épuisés. Et Sud-Ouest annonce l'ouverture de deux nouveaux centres de dépistage à Bordeaux. Et puis la presse rend hommage aussi ce matin à l'acteur Michael Lonsdale, décédé hier à 89 ans. Libération lui accorde une en noir et blanc. Ce monstre secret, titre le journal. Lonsdale à la une aussi du Figaro qui raconte son parcours de James Bond jusqu'au moine de Tibérine. Et voici maintenant les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Amblin, on commence avec vous et donc on parle de ces évaluations à l'école.
Oui, c'est en ce moment, ça concerne les élèves de CP, CE1, 6e et seconde. Des tests identiques pour chaque niveau en maths et en français. Et ces tests font débat surtout en cette rentrée post-confinement. Alors ce matin, Libération dresse deux colonnes finalement, les pour et les contre. Si pour certains ces tests sont une photographie à un instant T du niveau des élèves, pour d'autres les performances ne sont jamais figé mais malléable, donc ces tests ne sont pas représentatifs. Quand le ministère de l'Éducation nationale voit dans ses évaluations la possibilité de mesurer le niveau de décrochage des enfants, surtout après le confinement, eh bien, un chercheur en psychologie interrogé par Libé estime que la situation de l'examen lui-même crée des écarts de réussite et la pression évaluative biaise les résultats. Les professeurs les plus remontés contre ces tests de rentrée se sentent clairement dépossédés de leurs compétences. Finalement, ne sont-ils pas capables eux-mêmes d'évaluer leurs élèves ? Alors, une experte en politique éducative interviewée par Le Quotidien estime que ces évaluations permettent surtout à un professeur de se situer par rapport aux autres classes de son établissement, mais aussi aux autres classes de son territoire, voire les autres classes de France. Le problème, selon certains enseignants, c'est la difficulté de s'approprier les résultats et donc de proposer une aide aux élèves fragiles, alors que c'est bien là tout l'objectif du test. Voilà ces évaluations de rentrée remises en question. C'est dans Libération ce matin.
Et c'est tout le système français de on fait la même chose à tout voilà. Le monde quand dans d'autres pays, chaque prof est libre de faire ce qu'il veut dans sa classe.
Exactement.
Autre histoire, c'est le business du moment. Vous le savez, hein, l'usage du vélo en ville explose depuis le déconfinement. Mais ça fait les affaires des voleurs de bicyclettes. Ça n'est pas seulement à Paris. Hein. On estime qu'un cycliste sur trois résidant dans une grande ville s'est déjà fait voler son vélo. Alors où finissent ces vélos volés ? Le Parisien a fait un test un peu grandeur nature en se faisant volontairement dérober un vélo. Ils l'ont attaché avec un antivol très basique. Bon, ça n'a pas fait un pli dans le 19e arrondissement. Ils ont même filmé le voleur. Sauf qu'ils avaient quand même pris soin d'équiper ce vélo d'un mouchard, une balise GPS. Et du coup, ils l'ont suivi à la trace. Alors, première étape, un jardin du nord de Paris où les vélos volés sont stockés visiblement à la vue de tous avant d'être revendus. Une sorte de magasin à ciel ouvert. Et puis, le vélo est ensuite localisé dans un garde-meuble de la banlieue de Paris. Le journaliste se rend sur place et le retrouve dans un camion. Elle parvient à convaincre le géant finalement de lui rendre son vélo. Alors il est démonté, il est emballé dans du plastique, mais surtout elle aperçoit dans ce camion une quinzaine d'autres vélos, tous empaquetés, tous en partance pour le Maroc, pour y être revendus. On est le lendemain matin du vol, donc tout va extrêmement vite. Voilà, les vols de vélos ont augmenté de 8% cette année, ça c'est le chiffre officiel parce qu'en fait la majorité des gens ne vont pas porter plainte puisqu'il est extrêmement rare de les retrouver. Conseil, donc faites marquer vos vélos, vous savez, vous pouvez leur mettre une sorte de tatouage et pourquoi pas donc les équiper aussi quand ils ont une grande valeur d'une balise GPS comme ça pour les retrouver. Itinéraire d'un vélo volé, c'est à la une du Parisien.
C'est un sacré
matin.
Business.
Hein.
Oui.
Paul, votre dernière histoire du jour.
Nous sommes le 23 mars dernier à Enfield, dans la proche banlieue de Londres. Et alors que le coronavirus plonge le Royaume-Uni dans le confinement, la maison d'un habitant de cette banlieue est cambriolée avec un butin peu banal, des armes. Un Beretta, un Tomcat, un Walter PP, un Smith & Wesson, 44 Magnum et un Lama calibre 22. Alors si on en parle dans la presse ce matin, c'est avant tout pour son ancien propriétaire. Et oui, l'agent secret le plus connu de l'histoire, 007, James Bond, a donc été dépossédé d'armes qu'on l'a vu utiliser dans Meurs un autre jour, Dangereusement vôtre, ou Vivre et laisser mourir. Alors, l'une de ses armes à feu désactivée, le pistolet Lama, le fameux, a déjà été retrouvée dans un champ près d'une gare dans l'Essex en avril dernier. Les autres, des pièces parfois uniques, sont toujours introuvables. C'est pourquoi hier, Scotland Yard a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver tous les malfaiteurs, parce qu'a priori ils sont plusieurs, qui ont fait main basse sur ces 5 armes de la saga, dont le Magnum, qui est le seul au monde à être entièrement chromé, rien que ça. Donc ça vaut une petite fortune. L'un des enquêteurs souligne que ces armes ont une valeur sentimentale pour le nouveau propriétaire, des armes qui devaient faire partie d'une exposition nationale dans les mois qui viennent.
Eh ben, les armes de James Bond dérobées, on s'intéresse aussi beaucoup aux voitures de James Bond.
Ah oui, là, c'est, fameuse Aston Martin,
faut les protéger, celles-là. Oui. Parce qu'elles sont conçues d'ailleurs exprès pour les films. Oui. Voilà pour ces trois histoires
mais
du
jour. Mais les gadgets ne sont pas vrais, malheureusement.
Non, bien sûr. Voilà donc pour les trois histoires du jour qui nous ont marqué ce matin dans la presse. C'est notre pressing tous les matins. Il est 5h24.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs.
Alors, c'est une autre voix, une autre grande voix de la chanson française, l'immense Georges Brassens, à l'honneur aujourd'hui d'une vente aux enchères. C'est une vingtaine de manuscrits originaux qui vont être vendus aujourd'hui chez Arcurial. Alors, Brassens, on va y consacrer la partition du jour tout à l'heure avant le journal de 6h. Et surtout, l'invité inattendu à 6h10 va nous rejoindre. Alors, cet invité inattendu chante Brassens sur scène. Il a même consacré un spectacle, il a coécrit à Georges Brassens. Mais alors, il n'est pas du tout chanteur. Dans la vie, il est plutôt journaliste sportif et c'est pour ça que vous le connaissez. Vous le connaissez au bord des terrains de Roland-Garros, par exemple, ou aux Jeux Olympiques. Il interviewe les sportifs dans toutes les langues. Et les imitateurs s'en donnent souvent à cœur joie. Je suis sûr que vous avez deviné qui c'est, mais je laisse quand même le suspense. L'invité inattendu du 5-7 me rejoint tout à l'heure à 6h10 pour parler de Brassens. Un autre amateur de Brassens, j'en suis sûr, c'est Laurent Cabrol.
Ah, j'adore. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps.
Et voilà, exactement. J'allais le dire.
C'est exactement la
alors
chanson.
Alors, parlez-nous de la pluie ou du beau temps aujourd'hui.
Et surtout, c'est cette chanson, l'orage, qui est vraiment exactement. Le thème de la météo d'aujourd'hui, hein, puisque nous avons à peu près le même temps qu'hier, c'est-à-dire des orages. D'ailleurs, on les voit déjà hein, sur le Gard, sur des nuages orageux dans les Bouches-du-Rhône, la région d'Avignon, la région lyonnaise, etc. Donc, les orages sont déjà en place, parce qu'ils ont certainement... parce que je n'ai pas toutes les cartes des heures précédentes, mais ils ont certainement œuvré pendant la nuit. Et donc, ils seront là aujourd'hui avec des averses, avec des gros nuages, avec aussi parfois du soleil, et même du soleil chaud, sur tout le sud-ouest, le Massif central, le Poitou-Charentes, la région lyonnaise, le lac d'Annecy, le delta du Rhône, la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes et le Massif alpin. Dans toutes ces contrées, nous aurons donc un temps orageux, mais avec des percées ensoleillées, et plus il fera chaud, plus les orages seront violents. En Bretagne, Basse-Normandie, Val-de-Loire, Berry, Mâconnais, Alsace, c'est la période intermédiaire. C'est exactement comme hier, la période tampon, je disais hier. Donc avec quelques nuages éondés dans ces régions-là, hein, de la Bretagne ou Mâconnais. Et puis du soleil, comme hier, sur la Normandie, la Picardie, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la région parisienne et la Bourgogne. Ce sont c'est une situation dont il faut profiter si vous aimez ce genre de temps, parce que demain, le froid arrive. Aïe. Alors c'est vraiment tout prévu, tout a été. Si vous nous avez fait l'amitié, si vous avez fait l'amitié de nous suivre dans cette météo, je vous avais annoncé au début du mois de septembre que le temps allait changer à peu près au moment de la mi-septembre, entre la mi-septembre et le début de l'automne. Pour moi, le début de l'automne, c'est aujourd'hui. Eh bien, c'est bien vrai, c'est ça, et ça se passe, et ça se concrétise. Maintenant, est-ce que ça va durer ? Le mauvais temps, ou en tout cas le temps automnal, sera celui que nous aurons jusqu'à dimanche, hein, à partir de demain jusqu'à dimanche, lundi, mardi. Ensuite, on ne sait pas s'il fera un petit peu plus doux, mais enfin, je pense que oui. Températures maximales entre 22 et 25 degrés, et 27 à Paris, la ville la plus chaude.
Allez, on en profite parce que l'automne arrive, on l'a bien compris. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Europe 1 et au 5-7 pour vous réveiller. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Aujourd'hui, on voit que les mesures qui ont été répétées, qui sont peut-être un peu plus coercitives qu'au début du mois d'août, ne permettent pas en tout cas de réduire la circulation du virus tel qu'on le voit en tout cas à travers les eaux usées.
Des eaux usées que les chercheurs surveillent avec beaucoup d'attention. Résultat, le niveau de circulation du virus est équivalent à celui de début mars. À Rennes, bras de fer entre la maire socialiste et les quelques 4500 entreprises du numérique implantées dans la ville. L'élu refuse pour l'instant l'implantation de la 5G. La SNCF se diversifie et importe ses TGV en Espagne. On pourra dans un premier temps rouler à grande vitesse entre Madrid et Barcelone. Et puis, pour comprendre comment Georges Brassens a composé ses chansons, rien de tel que les manuscrits originaux. Une vingtaine sont vendus aux enchères aujourd'hui à Paris.
La crise Covid bouscule tout, y compris nos mentalités face au changement climatique. C'est l'enseignement d'un sondage qu'Europe 1 vous révèle ce matin. De plus en plus de Français sont prêts à consentir des efforts, y compris financiers, pour améliorer leur empreinte écologique. On en parle juste après le journal avec l'auteur de cette étude, Édouard Le Cerf de l'Institut BVA. Et puis la France bouge avec Jérôme Lacroix et une nouvelle initiative solidaire ce matin à destination des soignants. Bienvenue à vous tous, il est 5h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Comment mesurer vraiment la circulation du Covid en France? Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. C'est aussi parce qu'on pratique beaucoup plus de tests. Mais surtout, il y a l'analyse des eaux usées.
Et cela fait 6 mois que des chercheurs recherchent des traces de virus dans une 60aine de stations d'épuration, dont une bonne partie en Île-de-France. Et selon vos informations, Anne Le Gall, les dernières données ne sont pas très rassurantes.
Oui, quand le virus circule dans la population, cela se voit tout de suite dans les égouts. Pourquoi ? Parce que même des personnes très peu symptomatiques rejettent du virus quand elles vont aux toilettes. Et quand les signaux s'allument dans les eaux usées, c'est donc qu'il se passe quelque chose. Ce qui inquiète le professeur Vincent Maréchal, virologue, co-créateur de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées, c'est qu'en cette rentrée, les courbes qui grimpent depuis début juin continuent de grimper et les échantillons d'eau montrent un niveau d'affection de la population équivalent à celui de début mars.
Aujourd'hui, on voit que les mesures qui ont été répétées, qui sont peut-être un peu plus coercitives qu'au début du mois d'août, n'ont pas encore un effet majeur, ne permettent pas en tout cas de réduire la circulation du virus tel qu'on le voit en tout cas à travers les eaux usées.
Alors bien sûr, la situation n'a rien de comparable à celle du printemps. Le port du masque s'est généralisé, les complications du Covid sont mieux prises en charge. Il n'empêche, ces courbes de circulation qui ne s'aplatissent pas, c'est un avertissement, estime ce chercheur. Cela veut dire que le virus continue de gagner du terrain. Il est plus que temps maintenant de prendre des mesures pour préparer l'hiver.
Anne Le Gall, hier, la préfecture du Rhône a en tout cas pris de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus dans l'agglomération lyonnaise. Pas plus de 1000 personnes rassemblées pour les événements publics, extension du masque obligatoire et des visites réduites dans les EHPAD. En revanche, pas de fermeture anticipée des bars et des restaurants comme à Marseille ou Nice. Le gouvernement tente de mettre la pression sur la direction de Bridgestone qui ferme la porte à une poursuite d'activité sur son site de Béthune. Une contre-expertise doit évaluer les différents scénarios alternatifs pour reconvertir l'usine.
Le déploiement de la 5G continue de faire débat. À Rennes, la maire socialiste Nathalie Appéré n'en veut pas pour l'instant. Elle réclame d'abord une étude d'impact.
Une décision qui n'est pas du goût des dirigeants des quelques 4500 entreprises spécialisées dans le numérique installées dans la capitale bretonne. Des patrons qui n'excluent pas de s'installer ailleurs. Reportage François Coulon.
La maire de Rennes refuse la précipitation et veut imposer 6 mois d'études d'impact et de débats citoyens avant de tester la 5G sur son territoire. Nathalie Appéré.
Le droit des citoyens d'être éclairés sans être des amis pour sortir par le haut d'un débat qui s'hystérise parfois. Posons tous les arguments sur la table.
Le coup de frein de la maire secoue le cœur de métier de Rennes, le numérique qui fait vivre 4500 entreprises et 38 000 salariés. Jocelyn Denis, fondateur de Digitaléo.
La posture de certains élus écologistes de Rennes, qui était d'interdire, on a trouvé ça choquant parce que imaginons qu'on se projette à 5 ans, 10 ans, pas de 5G à Rennes, ou en tout cas pas reconnu comme étant le berceau de ces nouveaux réseaux. Ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'on n'existe plus en fait. Par une décision politique, finalement, on peut prendre beaucoup de retard. C'est comme si rien s'interdisait de vendre du champagne. Des grands donneurs d'ordre pourraient demain réfléchir à peut-être créer des labos ailleurs ou dans d'autres pays, là où la technologie sera bien vue, tout simplement. C'est vraiment une compétition mondiale aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas se permettre juste à un niveau local de dire stop.
La maire de Rennes n'exclut pas de peser sur les autorisations d'urbanisme requises par le déploiement de la 5G. Rennes, François Coulon, Europe 1.
Il est 5h35 sur Europe 1. Des TGV français rouleront bientôt en Espagne. Ce sera la première fois que la SNCF déploie ses trains à grande vitesse à l'étranger.
Oui, face à l'ouverture de la concurrence en France, le groupe ferroviaire va annoncer dans la journée les détails de son arrivée en Espagne au programme des TGV Madrid-Barcelone dès la fin de l'année. Les précisions d'Aurélien Fleureau.
Jusqu'ici, quand les TGV de la SNCF dépassaient les frontières de la France, il s'agissait de partenariats ou de filiales, comme avec Eurostar et Thalys. Là, elle devient un opérateur à part entière en Espagne, où les voyageurs pourront faire jouer la concurrence, dans un premier temps sur la ligne Madrid-Barcelone. La SNCF y proposera une version de Ouigo, son TGV low cost qui marche très bien en France. Ce sera le véritable coup d'envoi de la concurrence sur le marché de la grande vitesse, explique Gilles Dansard, directeur de Mobilettre et spécialiste du ferroviaire.
La SNCF, en fait, elle a choisi d'aller en Espagne avec une tarification agressive pour essayer de séduire le maximum de voyageurs espagnols. Et donc la SNCF va expérimenter cette concurrence d'abord à l'étranger. Elle va challenger son homologue espagnol, la RENFE, mais aussi un Italien. Et donc ça va être le premier pays, vraiment l'Espagne, complètement ouvert à la concurrence de la grande vitesse.
Un match France-Italie-Espagne sur le Madrid-Barcelone dès la fin 2021. Les trois opérateurs se retrouveront également en France sur la très rentable ligne Paris-Lyon-Marseille, avec là aussi des offres dès l'année prochaine.
Des soupçons de dopage sur le Tour de France qui vient de se terminer. Une enquête vise des membres de l'équipe française Arkéa Samsic, dont le leader est le Colombien Quintana. Deux personnes de l'entourage d'un coureur sont en garde à vue. Il s'agirait d'un médecin et d'un kiné.
Les copains d'abord, le vieux Léon ou encore le grand chêne. Les manuscrits originaux d'une vingtaine de chansons de Georges Brassens sont vendus aux enchères aujourd'hui.
150 pages qui permettent de mieux comprendre comment Brassens écrivait ses textes, son cheminement créatif. Diane Chénouda.
Avec cette écriture appliquée, assez ronde, un peu celle d'un écolier sur des feuilles de classeur ou de cahier, Brassens va noircir plusieurs feuillets pour une même chanson. Frédéric Arniche, du département Livres et Manuscrits chez Arcurial.
On voit qu'il a fait ça vraisemblablement en plusieurs temps, puisque la couleur des encres est différente. Il va réécrire très souvent les choses qui lui plaisent jusqu'à ce que la suite vienne. Et donc, au lieu de faire des ratures, on en voit quelques-unes, mais globalement, il y en a très peu. Au lieu de faire des ratures, il va remettre au propre, réécrire, en repartant depuis le début à chaque fois pour arriver à quelque chose qui lui plaise.
Le travail d'un perfectionniste qui pouvait mettre 4 ans pour écrire une chanson.
Juste aimer, célébrer, sans être inconvenant. Tendre corps féminin.
On voit comment Brassens, par exemple pour la chanson Le Blason, finit par trouver le mot, la rime juste. Comment le poète parvient à transformer ce qui pourrait être un peu vulgaire en quelque chose de subtil et délicat.
C'eût été mon ultime chant, mon chant du cygne.
Vente de ces manuscrits originaux de Brassens, ce soir donc à 18h chez Arcurial à Paris.
Et Brassens à l'honneur ce matin dans le 5-7, puisqu'on va en reparler dans la partition d'Amblin dans une dizaine de minutes et à 6h15 avec mon invité inattendu qui est un grand fan de Brassens, même si vous ne le connaissez pas du tout pour ça. Vous verrez, suspense, c'était le journal de 5h30 signé Hélène Zellani, 5h38. Place aux courses, Thierry Léger, quels sont vos pronostics pour le quintet ?
C'est sur l'hippodrome d'Auteuil que se disputera ce quintet réservé exclusivement à la jante féminine. Et parmi les 15 juments au départ de ce handicap sur les haies, François Nicole, tête de liste incontestée des entraîneurs d'obstacles, attaque en force avec 3 représentantes. Les numéros 4, Sagaline, 6, Spirit of the Bay et 7, Suzanne Senora, qui ont toutes les 3 des arguments à faire valoir pour postuler aux premières places. Elles devront toutefois sortir le grand jeu face au numéro 2, Belle Promesse, et 5, Laura Dame, classée dans cet ordre aux 2 premières places d'une course à condition d'un bon niveau le 1er septembre à Auteuil, sur le même parcours que celui qu'elles emprunteront cet après-midi. Enfin, les numéros 3, Great Escape, 9, Alnatop et 10, Famille Formidable, avantagées par une piste à peine souple, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 6, 7, 2, 5, 3, 9 et 10.
C'est bien noté, Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr. À demain.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille le premier invité de la matinale. Bonjour Édouard Le Cerf.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut BVA. Nous sommes au cœur cette semaine d'une semaine européenne consacrée au développement durable et vous publiez justement un sondage sur les Français face au changement climatique. Quel est le principal enseignement que vous en tirez ?
C'est sans doute la question du rapport entre cette urgence climatique et la crise sanitaire. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de triptyque dans l'esprit de chacun. Il y a potentiellement une crise économique et sociale, il y a une crise sanitaire et il y a une crise d'urgence climatique. Alors, la question était de savoir si, après ou pendant cette crise sanitaire, est-ce que cette urgence climatique qu'on a vue monter en puissance de manière exceptionnelle au cours des derniers mois, est-ce qu'elle est toujours aussi présente ? Et c'est là le premier enseignement intéressant. Pour près de 40% des Français, eh bien, elle est encore plus prioritaire. Il n'y a que 20% qui disent qu'elle est moins prioritaire. Alors que certains pouvaient penser que la crise sanitaire allait au contraire faire reculer cette notion d'urgence climatique, eh bien, c'est l'inverse. Et d'autant plus qu'on est jeune, c'est 46% chez les jeunes, comme si ça avait renforcé leur conviction de cette urgence climatique.
Cette crise accélère, bouscule les mentalités ?
Elle a continué. C'est-à-dire qu'on partait sur un point de départ où, naturellement, la conscience environnementale, on l'a vu, elle a progressé, et c'est visible à travers les discussions, à travers les élections aussi. On voit bien qu'il y a une montée en puissance très forte de cette urgence climatique. Et là, comme si cet élément, maintenant aujourd'hui, de crise sanitaire, eh bien, il était toujours présent, et c'était un élément de plus pour montrer plein de choses, pour montrer que l'homme dans la nature a une place particulière et éventuellement une place fragile, et que cette nature est fragile aussi. Aussi que lorsqu'on s'arrête un tout petit peu de faire un certain nombre de choses qui sont plus néfastes pour l'environnement, eh bien, on voit un effet immédiat. Donc on voit bien, il y a des effets de révélation et des effets de levier qui sont apparus au cours de cette crise sanitaire.
Alors vous interrogez aussi les Français sur les énergies renouvelables. Alors là, tout le monde est plutôt pour, hein, 85% favorable à l'installation de panneaux solaires, 78% aux éoliennes en mer. C'est un peu moins vrai encore pour les éoliennes terrestres, hein, 66%, bon, ça fait quand même 2/3, mais c'est un peu moins que le reste. Ça pose encore des réticences.
Oui, vous avez raison de le noter, il y a sans doute des éléments relatifs à la visibilité. On sait qu'il y a eu un certain nombre de polémiques à certains endroits, mais quand même, il faut le noter, on est sur les 2/3 au minima et jusqu'à 85% pour les panneaux solaires. On va dire que c'est une des solutions dans l'arsenal que les Français envisagent aujourd'hui. C'est un élément qui a aussi une capacité à montrer. Parce que lorsque vous faites un effort contre le réchauffement climatique, pour la durabilité effectivement énergétique, eh bien, vous avez envie de voir des éléments concrets. Alors parfois, on dit que ça se voit un peu trop, mais d'un autre côté, lorsque vous dites qu'il y a une éolienne, qu'il y a des panneaux solaires, eh bien, c'est tangible, c'est visible. On se dit qu'il y a tout de suite un effet. C'est sans doute un des éléments qui motive l'opinion des Français à cet endroit.
Et puis, il y a la question de la voiture. Alors là, les Français sont assez partagés. Finalement, c'est un peu 50-50 sur la voiture électrique.
Oui, c'est un peu 50-50. On est en train de faire des progrès, on le voit bien. On le voit bien d'ailleurs dans l'offre des différents constructeurs automobiles. Mais on a un Français sur deux qui dit « si je devais changer de voiture demain, eh bien non, je n'envisagerais pas de changer de voiture pour une voiture électrique ». Mais vous en avez quand même à peu près une proportion équivalente qui disent « c'est possible, il y a de grandes chances ou c'est même certain » pour 4% d'entre eux. Et parmi ceux qui disent qu'il y a de grandes chances ou que c'est certain, on est à 17% sur l'ensemble de la population, on est encore une fois à 28% chez les 18-34 ans. C'est là où va se faire le levier. Mais il y a encore.
Qu'est-ce qui freine encore pourtant, on en parle beaucoup de la voiture électrique.
Il y a deux éléments, sans doute. D'abord, il y a un coût d'accès. Les Français ont encore le sentiment, on le voit dans d'autres enquêtes, que c'est compliqué et que c'est un peu plus cher. On voit qu'il y a des efforts des constructeurs automobiles, mais il y a un premier élément. Le deuxième élément, c'est ensuite dans l'usage. Est-ce que je vais pouvoir rouler aussi facilement que ce que je roule avec ma voiture thermique ? Et là, on voit bien, il y a un des éléments. On a d'ailleurs posé la question. Il y a une sous-estimation incroyable des Français sur le nombre de bornes de recharge électrique. Ils ont le sentiment qu'il y en a beaucoup moins. Donc, naturellement, ça les incite à penser que je peux acheter une voiture électrique, je vais avoir du mal à la recharger, je vais avoir du mal à la rouler longtemps. Donc, ces deux éléments-là, à partir du moment où on apporte des preuves de cette capacité qu'on peut avoir éventuellement avec une voiture électrique à ne pas dépenser trop d'argent pour l'acheter et ensuite à pouvoir rouler de manière à peu près normale, c'est un des éléments qui va permettre de débloquer les choses. La grande difficulté dans ce mouvement-là, c'est de pouvoir se dire, un, est-ce que ce que je fais de ma manière petite, réduite, a un impact ? Et est-ce que dans le monde entier, de grands mouvements sont là capables d'apporter du soutien à ma propre action, à mon propre mouvement ? Et on le sait bien, par exemple, dans le domaine des énergies vertes, des énergies plus durables, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a près de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès direct à l'électricité. Le fait de pouvoir leur montrer à tout le monde que demain, ce développement de l'énergie pour ces populations-là se fait d'abord par quelque chose de durable, apportera la preuve. Il faut montrer, il faut tangibiliser pour que les intentions, dont on voit bien qu'elles sont présentes dans cette enquête, eh bien, soient aussi durables que profondes dans ce que l'on lit aujourd'hui dans l'enquête.
Et ça prouve aussi, en termes d'enjeux électoraux à venir, que les questions écologiques seront à nouveau au centre des débats.
Oui, bien sûr, on va toujours être sans doute à un moment où cet équilibre, qui n'est pas un équilibre facile, on le voit bien hein, dans la façon dont les politiques s'en saisissent ou ont du mal à s'en saisir. Comment gérer le triptyque entre un mouvement de croissance, ou en tout cas de durabilité économique et sociale, quelque chose qui puisse préserver l'environnement et au contraire lui assurer là aussi une durabilité, et comment est-ce qu'aujourd'hui cet l'élément sanitaire est venu rajouter, trianguler en quelque sorte le positionnement de chacun des politiques. Ça n'est pas évident, mais ce sera naturellement tout à fait essentiel dans la manière dont les Français jugeront les différentes propositions lors des prochaines échéances électorales, et on pense notamment naturellement à la présidentielle en 2022.
Voilà, on écoute le monde changer, les Français changer, leur mentalité, leur rapport à ces changements climatiques avec votre sondage BVA. Merci Edouard Le Cerf pour votre éclairage.
Merci
ce matin.
Europe 1.
Il est 6h moins le quart sur Europe 1 et c'est l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France avec vous. Jérôme Lacroix, où est-ce qu'on va ce matin?
On va à Port-d'Envaux, un village de Charente-Maritime, pour un merci aux soignants vraiment pas banal. Des mains, des visages, des personnages sculptés dans le calcaire, des œuvres d'art offerte aux personnels hospitaliers. L'initiative, le renvoi d'ascenseur très personnel de ce groupe d'artistes que je vous fais rencontrer.
Les Français ont des idées, la France bouge avec Jérôme Lacroix tous les matins. Et on regardera aussi les réseaux sociaux avec Paul Lassen. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h47 sur Europe 1. La directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo a été exfiltrée de son domicile. Elle a dû partir en 10 minutes en raison de menaces jugées sérieuses en plein procès des attentats de janvier 2015. Marie Cabrette témoigne ce matin sur Europe 1. Elle sera l'invitée du tête-à-tête de Mathieu Béliard tout à l'heure à 7h40. Situation extrêmement inquiétante selon le président de l'établissement français du sang. Les réserves continuent de baisser et un appel au don du sang est lancé en urgence. Et puis l'Italie qui durcit ses conditions d'entrée pour les Français. Originaires de cette région, il faudra obligatoirement un test négatif si l'on vient d'Île-de-France, de Provence, Côte d'Azur, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Écoutez Le Monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
5h48, la France bouge, comme tous les matins avec Jérôme Lacroix. Quand chacun donne un peu de son temps, fait parler son talent au bénéfice des autres, et bien ça donne de belles initiatives. Et Jérôme, vous les mettez en lumière tous les matins. Aujourd'hui, honneur à ceux qui nous ont tous épatés.
Les soignants, pendant la crise sanitaire, ils ont épaté la galerie d'art, celle de Port-d'Envaux, entre Saint et Rochefort, en Charente-Maritime. Un musée à ciel ouvert qui s'appelle Les Lapidiales. Les artistes de cette institution fignolent depuis des semaines des œuvres d'art, des sculptures pour célébrer toutes ces vies sauvées du coronavirus par les soignants.
Alors, quelle est la démarche de ces artistes?
Ils vont offrir leurs travaux, non pas alors aux soignants personnellement, quoique presque, elles doivent être offertes aux hôpitaux du département. Et on sait que dans les hôpitaux, les soignants y passent des heures et des heures, c'est presque chez eux, entre guillemets. Alors, les hôpitaux concernés, Sainte, Rochefort, notamment, 6 sculpteurs français et un allemand, rémunérés pour ces travaux. Des œuvres sculptées dans le calcaire. Une obligation, une seule obligation pour la fabrication, le travail doit être manuel, aucune machine pour découper ou tailler la pierre. Un modus operandi traditionnel, mais qui se perd.
Et elle représente quoi, ces sculptures?
5 personnes enlacées, une chorale par exemple. C'est la création de l'artiste Michel Caïric. Elle a voulu symboliser l'entraide et la solidarité, racontait-elle il y a peu au journal Aujourd'hui en France. Autre exemple, Sylvie Berry, une autre artiste, a représenté des mains de soignants, desquelles sortent guéris 2 personnages. Philippe Stemelin a lui aussi opté pour des mains. Deux mains qui s'entraident, l'une masculine, l'autre féminine, hommage aux infirmières. Tous ces sculpteurs éclairés espèrent que ces offrandes offriront un peu d'apaisement aux personnels hospitaliers. Ils encouragent d'ailleurs tous les artistes de France à fleurir ainsi d'œuvres d'art les hôpitaux du pays.
Voilà, après les Français qui faisaient des gâteaux pour les soignants pendant le confinement, voici les artistes qui offrent des sculptures pour décorer les hôpitaux. Belle initiative, comme chaque matin. Merci Jérôme Lacroix, à demain. Les réseaux sociaux à présent avec vous Paul Lassen et tout ce débat autour de la tenue correcte exigée à l'école.
Oui, on vous le racontait la semaine dernière, de nombreuses lycéennes notamment ont lancé un mouvement de protestation pour s'habiller comme elles le souhaitent quand elles viennent à l'école. Et hier, c'est le ministre de l'Éducation lui-même, Jean-Michel Blanquer, qui leur a répondu avec une réclamation: venir habiller de façon républicaine. Une définition pour le moins abstraite qui a beaucoup fait réagir les internautes. Certains professeurs d'histoire, par exemple, se sont amusés à prendre le ministre au pied de la lettre. Rassurez-vous, la Révolution française a pensé à tout pour être fashion et confort, a par exemple tweeté Thibault. chiche provoque un autre professeur photo d'époque, ou plutôt croquis de sans-culottes à l'appui. D'autres internautes, eux aussi, ont utilisé des images symboliques de la République française pour se moquer un peu des propos du ministre. L'icône française Marianne, souvent représentée seins nus, et surtout la liberté guidant le peuple, la célèbre toile d'Eugène Delacroix, avec différentes légendes. Groupe de jeunes lycéens allant en classe d'une façon républicaine, ou encore, ça y est, le topless enfin autorisé au lycée. D'autres, à l'inverse, ont utilisé ces propos pour relancer l'idée d'un débat d'une tenue unique à l'école. L'avantage de l'uniforme, c'est que tu éviteras des centaines de polémiques stériles, estime un internaute. Conclusion d'Agathe, une jeune lycéenne. Si on ne se met pas d'accord sur le crop top ou l'uniforme, on n'a qu'à tous venir nus, non ? Est-ce qu'on peut vraiment faire plus ? Liberté et égalité.
Voilà, beaucoup d'ironie et de sarcasme sur les réseaux sociaux autour de cette expression de tenue républicaine. Ça ne règle pas du tout le débat sur cette tenue qui découvre le nombril et le ministre de l'Éducation.
On n'a pas du tout avancé.
On n'a pas du tout trouvé la réponse pour l'instant sur savoir si c'est autorisé ou pas. Les réseaux sociaux tous les matins avec Paul Lassen sur Europe 1. On te raconte tous les jours à 14h sur Europe 1, vous le savez, mais dès maintenant, vous retrouvez l'histoire du jour en podcast. L'affaire Saint-Aubin, dans les années 60, un accident de voiture qui n'en était peut-être pas un. Pendant 35 ans, la justice française a voulu dissimuler la présence au moment de cet accident d'un camion militaire. Pourquoi ? Le mystère, le récit, on te raconte à télécharger dès maintenant sur Europe1.fr. La Jeanne. La voix. Et la poésie de Georges Brassens, c'est à suivre dans la partition d'Omblin Roche. A tout de suite.
Europe 1.
5h54, c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche. Chaque matin, l'histoire qui se cache derrière une chanson. Ce matin, cette chanson tellement connue, ce classique, l'Auvergnat. Alors nous sommes en mars 1943, Georges Brassens a 21 ans et il est envoyé au STO, Omblin, le service du travail obligatoire en Allemagne.
Jusque-là, il avait échappé à la guerre. Il se présente le 8 mars dans le hall de la gare de l'Est, direction Basdorf, à une trentaine de kilomètres au nord de Berlin.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp, dira-t-on, avec un pudeur.
Pendant l'occupation, Georges Brassens passe l'essentiel de ses journées dans les livres.
Oui, il apprend également le piano sur l'instrument de sa tante. Le voilà donc parti pour l'Allemagne pour travailler sur des moteurs d'avion. Il partage son baraquement avec 15 garçons du même âge et leur fait entendre les mélodies qui accompagneront ses textes plus tard, celle du gorille par exemple.
Et le 8 mars 1944, un an jour pour jour après son arrivée à Basdorf, il décide de ne pas revenir d'une permission à Paris.
Commence alors une vie enchantée au numéro 9 de l'impasse Florimond dans le 14e arrondissement de Paris.
Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche, hanche.
Chez Jeanne, donc, dans cette toute petite rue, vit Jeanne Le Bonniac.
Oui, une amie de la tante de Georges Brassens, elle lui envoyait d'ailleurs régulièrement des colis à Basdorf. Jeanne est lingère et couturière, une bretonne, un peu bourrue, mais une bonne samaritaine qui, en plus de recueillir le petit Georges, sauve les chats et les oiseaux blessés du quartier.
Alors, elle a 30 ans de plus que lui, elle est mariée à l'Auvergnat, Marcel Planche. Et avec Georges Brassens, la relation est affectueuse.
Oui, il y a un petit peu d'amour là-dessous, en plus d'une profonde admiration. Ce curieux ménage vit avec pas grand-chose. Chose, sans eau chaude ni commodité, les toilettes sont dans la cour et font office de salle de bain. Une maisonnette avec un mur surplombé d'un arbre, cet arbre qu'il chantera 12 ans plus tard.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre.
Alors chez Jeanne, on survit grâce à l'argent envoyé de Sète par les parents de Georges Brassens.
Et oui, il aimera raconter plus tard qu'on coupait les pommes de terre en trois, mais Jeanne ne lui demande jamais rien et l'atmosphère est chaleureuse malgré le confort matériel que lui apportera le succès. Georges Brassens restera à Passe Florimond jusqu'en 66.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné et quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez.
Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain, quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés.
Voilà, cet Auvergnat, l'hommage de Jean Brassens à Jeanne et Marcel Planche.
Oui, et sachez qu'aujourd'hui, les manuscrits originaux de 20 chansons de Brassens seront vendus aux enchères chez Arcurial.
On va en reparler de Brassens tout à l'heure avec mon invité inattendu. Ce sera juste après le journal de 6h. La partition d'Emblin Roche, tous les matins. À demain, Emblin.
Merci, à demain.
Laurent Cabrol, oui. Une autre chanson de Brassens, c'est l'orage.
L'orage aujourd'hui, effectivement, puisqu'il y en aura, et il y en aura, et ils sont déjà présents, hein, je l'ai dit tout à l'heure, des orages dans le Bouches-du-Rhône, l'Avignon, la région d'Avignon, la région lyonnaise. Ils n'éclatent pas forcément, ce sont les orages qui sont là sous forme de nuages. Dans le Gard, il y en a, là, cette fois ils éclatent. Hein. Des orages et des averses vont gagner toute la journée, comme hier, le sud-ouest, le massif central, la région Rhône-Alpes, il y aura aussi la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, le massif alpin dans son ensemble. Et puis en Bretagne, Basse-Normandie, Berry, Mâconnais, Alsace, c'est une alternance de nuages avec des ondées, c'est la période intermédiaire. Le soleil sera là sur la Normandie, la Picardie, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Île-de-France, du soleil et la Bourgogne. Température comme hier, entre 21 et 27. Dépêchez-vous, demain ça plonge.
Profitez, profitez. À tout à l'heure, Laurent.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci d'être fidèle à Europe 1 pour vous réveiller. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h.
Même si rien ne remplace les véritables rencontres physiques, je pense qu'on peut quand même maintenir une relation de confiance avec nos collègues, y compris en télétravail.
Quel avenir pour le télétravail ? Devenu la norme pendant le confinement, beaucoup d'entreprises souhaitent désormais le pérenniser. Ultime réunion entre syndicats et patronats aujourd'hui. Rien ne va plus entre Éric Dupond-Moretti et les magistrats qui dénoncent la nomination d'une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature. Dans ce journal également, la nouvelle juge pour la Cour suprême des États-Unis sera désignée en fin de semaine. C'est Donald Trump qui l'a dit. Le carton du loto du patrimoine malgré la crise sanitaire. Et puis l'hommage de Lambert Wilson à Michael Lonsdale, disparu hier à la de 89 ans. Votre invité après ce journal, Sébastien.
Dans 10 minutes, mon invité inattendu est un immense fan de Georges Brassens. On en parlait à l'instant. Brassens dont des manuscrits sont vendus aux enchères. Fan de Brassens, il le chante aussi sur scène, mais vous ne le connaissez pas du tout pour ça. Ça va vous surprendre. Vous le connaissez comme journaliste sportif, intervieweur sur France Télévisions, sur les cours de Roland-Garros, dans toutes les langues. Vous l'avez. On l'appelle juste après le journal. Et puis notre environnement, notre planète avec Fanny Agostini. Bon réveil, 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le télétravail va-t-il, oui ou non, se généraliser ? Cela fait 5 mois que syndicats et patronats tentent de trouver un accord pour les entreprises, mais les discussions patinent. La dernière réunion est prévue aujourd'hui. Pour autant, beaucoup d'entreprises n'ont pas attendu l'issue de ces discussions et négocient des accords en interne pour instaurer le télétravail 2 ou 3 jours par semaine. Olivier Samin, il y a même des entreprises qui n'ont toujours pas fait revenir leurs salariés au bureau.
Ben oui, ADP par exemple, rien à voir avec Aéroports de Paris, c'est une société de services qui édite 3 millions de bulletins de paye chaque mois en France. Dans l'entreprise, personne n'a remis les pieds au bureau depuis 6 mois. Les 2300 salariés pratiquent le télétravail à 100% et ça restera la règle plusieurs mois encore s'il le faut, jusqu'à ce que la menace Covid s'atténue. Pas de problème, dit Charlie.
Ma vie de salarié n'a pas été tant perturbée que cela et même si rien ne remplace les véritables rencontres physiques, je pense qu'on peut quand même maintenir une relation de confiance avec nos collègues, y compris en télétravail.
Oui, alors tout le monde en télétravail toute la semaine, c'est la solution extrême. Certaines entreprises vont un peu moins loin. Elles offrent la possibilité aux accros du travail au bureau de revenir. Mais cela reste très réglementé, hein, Olivier.
Oui, chez Microsoft France, par exemple, le télétravail à 100% reste la règle. Les volontaires, pour revenir au bureau, il y en a quand même, doivent s'inscrire à l'avance et la jauge est limitée à 150 sur un effectif de 1800 personnes. Même système au siège parisien de Monster, le site d'offres d'emploi. Depuis la semaine dernière, Les volontaires peuvent revenir. 5 seulement l'ont fait sur un total de 50 salariés. Et à l'antenne de Marseille, personne n'est revenu et ne reviendra jamais au bureau. Ben oui, dit la responsable RH, Anaïs Tonin, le choix a été de passer au télétravail intégral et définitif.
Nous avons décidé de fermer nos locaux, de proposer à tous nos salariés de rester en télétravail à leur domicile de manière permanente. Pour cela, ils ont tous signé un avenant télétravail à 100%.
Alors ça ne veut pas dire que les 18 salariés de Monster à Marseille ne se verront plus jamais. Une fois par semaine, le jeudi, ils se détourneront de leurs écrans et se retrouveront dans un espace de coworking loué à la journée.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. L'épidémie continue de gagner du terrain en France. Le taux de positivité au virus augmente et frôle les 6%. À partir d'aujourd'hui, le protocole sanitaire est allégé dans les écoles primaires et maternelles. Si un élève est contaminé, ses camarades et son enseignant ne sont plus considérés comme cas contact.
C'est la première pierre du chantier voulu par Éric Dupond-Moretti. La nomination de l'avocate pénaliste Nathalie Roret à la direction de l'École nationale de la magistrature.
C'est la première fois qu'une femme non magistrate prend la tête de l'institution depuis sa création il y a plus de 60 ans. Une manière pour le ministre de la Justice de lutter contre cette culture de l'entre-soi qu'il dénonce. Écoutez.
L'ouverture, c'est d'abord rompre avec des traditions surannées. C'est rompre avec la tentation du vase clos et de l'entre-soi. L'ouverture, c'est encore renforcer l'apprentissage chez les futurs magistrats d'une vraie culture du contradictoire. L'idée, c'est d'abord d'ouvrir cette école et de dépoussiérer un certain nombre de choses qui me semblent passéistes et qui aujourd'hui ne sont plus de mise.
Voilà, Éric Dupond-Moretti. Alors cela ne va pas arranger les relations déjà très tendues entre le garde des Sceaux et les magistrats. Marie-Noëlle Courtiot-Duterrier est la secrétaire nationale de l'Union syndicale de la magistrature. Elle pointe une nouvelle forme de provocation.
La révolution qu'il appelle de ses voeux, je crois qu'il a une méconnaissance de ce qui se passe à l'ENM, puisque l'ENM est ouverte à d'autres professions, puisque la moitié des auditeurs de justice, j'en suis un produit, provient de professions antérieures autres et pas un pur produit universitaire à l'âge de 22 ans. Or, c'est ce qu'il dénonçait. Et je rappelle aussi que 70% des stages au sein de la formation des magistrats qui durent plus de 30 mois, ce sont des stages extérieurs, y compris dans des institutions autres. Donc l'ouverture qu'il appelle de ses voeux existe déjà.
La secrétaire nationale de l'Union syndicale de la magistrature au micro Europe 1 de Justin Morin.
Il est 6h05 sur Europe 1, on part aux États-Unis. Donald Trump l'a annoncé hier, il désignera la nouvelle juge à la Cour suprême en fin de semaine.
Le président américain martèle que le vote au Sénat doit se tenir avant l'élection présidentielle quand son opposant démocrate Joe Biden demande lui au Sénat de ne pas se prononcer avant le scrutin. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La succession de Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi dernier, devient un véritable enjeu de la campagne présidentielle.
Oui, Donald Trump veut attendre que les hommages nationaux soient passés pour donner le nom de la remplaçante, ce sera une femme, de la juge Ginsburg. Par respect, a dit le président américain, en revanche, il ne respectera donc pas le souhait de la magistrate sur son lit de mort, être remplacée après l'élection du prochain président. Donald Trump accuse même les démocrates d'avoir inventé cette dernière volonté et il veut aller très vite. J'aimerais un vote de confirmation avant l'élection, a dit le président. Il restera beaucoup de temps. Après, c'est à Mitch de jouer. Et Mitch, c'est Mitch McConnell, le patron du Sénat, sur la même longueur d'onde que le président. Il est prêt à dégainer.
Trump's nominee for this vacancy will receive a vote.
Le Sénat votera la confirmation du candidat choisi par le président Trump, a-t-il dit hier. Nous avons largement le temps de le faire d'ici à l'élection, voire même l'installation d'un nouveau Sénat début 2021. Les démocrates sont furieux, mais ils n'ont pas tellement d'options pour empêcher ce vote. Il faudrait réussir à convaincre 4 sénateurs républicains de faire défaut. Pour l'instant, 2 seulement ont dit qu'ils refuseraient de confirmer un nouveau juge de la Cour suprême avant les élections.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Europe 1. À suivre dans ce journal de 6 heures, le succès du loto du patrimoine. Près de 17 millions d'euros récoltés depuis le début du mois de septembre.
Et puis ils avaient partagé l'affiche du film Des hommes et des dieux. Lambert Wilson rend hommage à Michael Lonsdale, disparu hier.
A tout de suite sur Europe 1, 6h07.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
6h09, la suite du journal de 6h avec Sophie Echen.
La crise sanitaire n'a pas eu raison de la passion des Français pour le patrimoine. Selon les informations d'Europe 1, le loto patrimoine version 2020 cartonne. Tout semble indiquer que cette nouvelle édition va rapporter cette année au moins autant que l'an dernier, estime Stéphane Palaise, la PDG de la Française des Jeux.
On a récolté pratiquement 17 millions d'euros depuis le début du mois de septembre sur l'ensemble des Jeux patrimoine, sachant que l'année dernière, on a récolté au total 25 millions. Donc on est bien pour atteindre au minimum la même chose que l'année dernière. C'est ce qu'on s'est fixé comme objectif. On a sélectionné 390 monuments. Il y en a 44 qui ont fini leurs travaux de restauration financés par l'autopatrimoine. Il y en a 144 autres où le chantier est en cours. Donc en gros, la moitié des monuments sur lesquels on a collecté de l'argent depuis 3 ans, sont en train d'être restaurés. Donc c'est vraiment très concret et c'est vraiment très important, je pense, pour nos territoires.
La PDG de la Française des Jeux, invitée de la France Bouge hier sur Europe 1.
Et ça va réjouir l'ami Stéphane Bern. Et puis, il aura marqué l'histoire du cinéma et du théâtre. L'acteur franco-britannique Michael Lonsdale est mort hier à 89 ans.
Il était fervent catholique, notamment connu pour son rôle de moine dans Le Nom de la Rose ou dans Des Hommes et des Dieux, où il joue l'un des religieux de Tibérine assassiné, aux côtés de Lambert Wilson, qui se souvient d'un homme admirable et talentueux.
C'était très, très intéressant de le voir au travail. Il était très peu démonstratif. La caméra vraiment venait voler son intelligence dans son regard. Il avait très bien compris ça dans le cinéma, que tout est pensé, il ne faut pas surjouer. Quand je pense à Michael Lonsdale, je pense surtout à sa voix. C'est une voix de chanteur d'opéra qui serait au repos, qui parlerait simplement plutôt que de chanter. On s'imagine subitement qu'il allait entonner un air de basse profonde russe pour jouer des Rasputin, pour jouer des personnages comme ça très, très enflammés, avec une très grande profondeur et une grande virilité dans le timbre. Dans les dernières années, il était devenu extrêmement reclus et j'aurais simplement aimé lui faire un petit signe comme ça, lui dire qu'on pensait à lui et qu'on était là. Je lui fais maintenant un petit signe de la main pour lui dire bon voyage.
Voilà l'hommage de Lambert Wilson à Michael Lonsdale, recueilli, propos recueillis par Johanna Chabas.
Et la voix de Christophe, de Lambert Wilson. Cette désannonce complètement ratée. C'était le journal de Sophie Echen à 6h11 sur Europe 1.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Vous appelez bien Jérôme Lacroix,
c'est moi-même.
Le journal des sports, à la une, le retour du soupçon.
Oui, 8 ans que le Tour de France cycliste n'avait plus été confronté à des soupçons significatifs de dopage depuis 2012. La mauvaise ombre plane ce matin sur la formation bretonne Arkéa Samsic, celle du Colombien star Nairo Quintana, 3 fois sur le podium de la Grande Boucle par le passé, mais seulement 17e avant-hier à Paris. Une enquête judiciaire est en cours. 2 suspects sont en garde à vue. Au-delà de cette affaire, les performances de plusieurs coureurs, y compris celle du vainqueur Tadej Pogacar, ont interloqué plusieurs observateurs, parmi lesquels Antoine Vaillet, ancien entraîneur de l'équipe Festina en 1998 et contributeur du blog ChronoWatt. Il y dénonce régulièrement le dopage.
J'ai peur aussi par rapport à Pogacar, j'ai peur par rapport au cyclisme pour le Tour de France à cause des performances de Pogacar et de certains sur ce Tour de France. Les problèmes ne sont pas réglés, les problèmes sont des problèmes avant tout d'encadrement. On devrait contrôler aussi les gens des encadrements. Et il est temps de faire un grand ménage dans l'encadrement des équipes. Et à partir de là, on pourra avancer peut-être.
Et pour l'heure, pas de réaction des organisateurs du Tour de France.
Le foot et Neymar, a-t-il, oui ou non, été la cible d'injures racistes lors de PSG Marseille il y a 10 jours?
Oui, répondent certains médias, dont le site brésilien Globo Esporte, qui a décortiqué les images télé avec les services d'experts en lecture labiale. Ces derniers auraient bien lu le mot « singe » lancé à Neymar par l'Espagnol de l'OM Alvaro González. La Ligue française mène actuellement son enquête. La sanction pour ces faits est 10 matchs de suspension. Un résultat de Ligue 2, Auxerre a battu 3-2 en clôture de la 4e journée.
Roland Garros fait la chasse au coronavirus.
900 tests PCR pratiqués depuis jeudi dernier sur l'entourage et les participants aux qualifications qui se tiennent cette semaine. Alors pour l'heure, 6 participants exclus, 5 joueurs, on vous en parlait hier, et une joueuse ce matin. Contexte pesant, hein, les concurrents le racontent. Des gradins vides, prudence extrême en dehors des cours de tennis. Récit du français Benjamin Bonzi, 24 ans, 224e mondial.
Franchement, c'est quand même un contexte très spécial de se balader toujours avec un masque, d'essayer de rester à distance des autres joueurs, surtout de ceux qu'on est proches, etc. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Le plus gros, entre guillemets, désavantage, c'est ouais, de pas avoir de public. Ça fait vraiment bizarre de jouer dans un, entre guillemets, un stade qui sonne un peu creux. Ça fait vraiment un manque, et encore plus pour les Français, où on adore se servir de ça quand on joue ici.
Des propos recueillis par Corinne Boulou au début du tournoi principal de Roland-Garros dimanche. Et Novak Djokovic arrive auréolé d'un nouveau titre majeur, le tournoi de Rome. Victoire hier en finale contre l'Argentin Schwartzmann. Côté dame, succès pour la Roumaine Alep sur l'abandon de son adversaire, la Tchèque Pliskova.
L'histoire du jour.
La locomotive Zlatan Ibrahimovic. Il aura 39 ans dans deux semaines. L'attaquant star ancien du PSG, mais hier soir, il a emmené son club actuel à la victoire. L'AC Milan a battu Bologne 2-0 en première journée de championnat d'Italie. Deux buts du Suédois. Et à la fin de la partie, attention, réaction zlatanesque, deux points, ouvrez les guillemets. Si j'avais eu 20 ans ce soir, j'aurais marqué 4 buts, pas 2. Mais heureusement, j'en ai 39. Je suis comme Benjamin Button. Je suis né vieux, mais je vais mourir jeune.
Oh là là, je crois qu'il faut la relire. 6h15, c'est Europe 1. Merci Jérôme Lacroix. À demain.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1.
Allez, c'est l'heure de découvrir qui est l'invité inattendu du 5-7 ce matin. Vous le connaissez, c'est l'intervieweur polyglotte des sportifs sur France Télévisions et notamment à Roland-Garros.
Bonjour Sébastien, bonjour à vous tous, c'est Nelson Monfort.
Bonjour Nelson Monfort, bienvenue sur Europe 1. Alors, vous ne venez pas nous parler de tennis, de Roland-Garros, ni même de patinage artistique. On va parler de Georges Brassens avec vous ce matin. C'est une autre de vos passions et vous la partagez avec nous à l'occasion d'une vente aux enchères exceptionnelle qui a lieu aujourd'hui. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
L'invité inattendu du 5-7 est donc le journaliste de France Télévisions, l'intervieweur de Roland-Garros ou encore des JO. Nelson Monfort est avec nous, mais pas pour parler sport, pour parler de Georges Brassens, dont une vingtaine de manuscrits originaux seront vendus aux enchères aujourd'hui chez Arcurial. Nelson Monfort, d'où vous vient cette passion pour Brassens ?
Oh, je dirais que c'est une passion qui remonte à ma plus tendre enfance, dès le plus jeune âge. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que Georges Brassens, bien sûr, il y a d'autres artistes français, mais enfin, pour moi, il est le numéro un depuis toujours.
Et alors, vous avez été beaucoup plus loin qu'un simple passionné, puisque vous avez même coécrit un spectacle qui lui est dédié.
C'est un spectacle qu'effectivement, nous avons écrit, des copains d'abord, et c'est un spectacle que j'ai voulu faire, en tout cas, plein de tendresse, plein d'amitié, et puis surtout, un petit peu nouveau dans le sens que Georges Brassens, le saviez-vous, adorait les rythmes américains, les rythmes jazz, les rythmes jazzy comme ça. Nous avons voulu pousser vers ça pour surprendre un peu le public. Et quant à moi, je suis à la fois, disons, le concepteur, vous l'avez dit, et puis le conteur et parfois le chanteur.
Qu'est-ce que vous chantez ?
Dans le spectacle, il y a une douzaine de chansons. Vous savez, il a fallu faire un choix parce que sinon le spectacle durerait toute la nuit.
Quelle chanson vous tient le plus à cœur ?
S'il fallait en choisir une, parce que je trouve qu'elle montre mais tellement, tellement bien l'humour, la tendresse, l'intelligence poétique, tout pour moi est dans cette chanson de Georges qui s'appelle L'Orage. Sans doute la connaissez-vous.
Et ça donne quoi, Nelson Monfort sur scène ? Vous nous faites une petite démo ?
Comme elle est assez longue, je vous ferai uniquement l'introduction, oui. Rassurez-vous. Hein. Et si je chante faux, vos auditeurs auront le droit de me lancer des tomates à distance. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand bonheur qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage.
Nelson Monfort chante Brassens ce matin sur Europe 1. Ça, c'est vraiment le concept de l'invité inattendu pour le coup. Alors, vous dites que vous racontiez des anecdotes sur scène. Vous en avez une en tête là qui vous vient ?
Il y en a une qui est très belle et certaines personnes la connaissent, mais c'est assez rare. Vous connaissez naturellement sa chanson « Une jolie fleur dans une peau de vache ».
Oui, bien sûr.
Et bien, sachez que cette chanson a été dédiée à quelqu'un et pas quelqu'un d'anodin. Je vous fais l'histoire courte. Dans les années 50, Georges monte à Paris. Et bon, on s'essaye comment, dans des cabarets, etc. Ça marche plus ou moins bien. Mais entre-temps, il tombe fou amoureux d'une jeune actrice qui a tout pour lui plaire, d'une jeune starlette, on va dire, dont le prénom est Nadine. Mais le seul problème, c'est que la Nadine en question n'est pas du tout amoureuse de Georges. Et qu'est-ce que c'est que ce bohème avec sa moustache, sa pipe, etc. Elle a en tête une union bien plus forte pour elle en la circonstance. Et donc, Georges, très malheureux, écrit cette chanson, Une jolie fleur, parce que c'est vrai qu'elle l'était, dans une peau de vache. Apparemment, à l'époque, elle l'était aussi. Et bien, cette Nadine Tellier est devenue Nadine de Rothschild. Ah, je trouve que cette anecdote voilà. Est extrêmement savoureuse. Et en plus, c'est l'intéressée elle-même, Nadine de Rothschild, qui me l'a racontée avec une certaine nostalgie, il faut le dire.
Vous connaissez tout de Brassens, vous avez tout lu, vous êtes un vrai fan. Vous seriez prêt à vous laisser tenter à faire un caprice, à aller à cette vente aux enchères qui va mettre en vente une vingtaine de manuscrits originaux et vous faire un cadeau.
J'y serai tout à fait prêt. J'ai en plus visité, sans doute avez-vous entendu parler de cette, j'allais dire musée, mais c'est plus qu'un musée à Sète, à l'île natale, oui. Là où il repose, comme vous le savez, il y a une sorte de, comment je dirais, presque une médiathèque Georges Brassens, où vous avez le sentiment, et je n'exagère pas, qu'il va entrer, ouvrir la porte, tellement son souvenir est présent. Vous savez, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, Sébastien, pour dire qu'il y a certains artistes dont l'œuvre est supérieure à la personnalité. On a beaucoup parlé de ça ces derniers temps et tout. Mais chez Georges, nous sommes face à un bloc de générosité où l'œuvre et l'artiste et l'homme sont à la même hauteur et sont très très hauts. Dans mon cœur et je pense dans le cœur de millions encore d'entre nous.
Nelson Montfort, fan de Brassens ce matin sur Europe 1, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu. D'une scène à l'autre, on vous verra sur la terre battue de Roland-Garros la semaine prochaine.
Oui, voilà, j'espère que ce sera dans des conditions à peu près normales. Chaque jour, il y a quelques informations contradictoires qui tombent.
Vous pourrez être au contact des joueurs cette fois-ci ?
Bah oui, avec peut-être des perches à 3 mètres de distance. Vous savez comment ça se passe.
Voilà.
Et
puis
j'espère qu'il
n'y
aura pas trop d'orage. Et s'il y a un orage, que ce soit celui de Georges Brassens.
Merci beaucoup, Nelson Montfort. À bientôt. Bonne journée.
À bientôt.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter.
Et voilà cet orage de Georges Brassens. Merci à Nelson Montfort. Il est 6h24.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Les règles sanitaires dans les écoles sont assouplies à partir d'aujourd'hui. Si un élève est testé positif, ses camarades et son enseignant ne seront plus considérés comme des cas contacts. Après Marseille, Bordeaux et Nice, Lyon impose de nouvelles restrictions, port du masque obligatoire et interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Et puis encore un petit espoir pour les salariés de l'usine Bridgestone de Béthune. Après l'annonce de la fermeture du site, le gouvernement demande une contre-expertise pour savoir ce qui a poussé la direction à prendre cette décision.
Europe 1.
Et le 5-7 continue avec vous, Fanny Agostini, bonjour.
Bonjour Sébastien.
On regarde notre planète dans un instant avec vous et on regarde vers l'Arctique. A tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Il est 6h27, on écoute le monde changer et on regarde notre planète tous les matins avec Fanny Agostini. Fanny, vous nous dites ce matin que les scientifiques veulent donner une nouvelle définition au climat polaire.
Oui, c'est ça. Que fait-on, Sébastien, lorsque les températures changent tellement vite dans l'Arctique, au point que l'on ne puisse plus parler de climat polaire ? Eh bien, selon une étude récente du Centre national de recherche atmosphérique, le climat dans le pôle Nord est en train de radicalement changer, au point que le qualificatif polaire ne colle plus vraiment à la réalité. Et les climatologues cogitent en ce moment pour le redéfinir, pour carrément lui donner un autre nom.
Alors, la définition telle qu'elle existe, quelle est-elle aujourd'hui ? C'est quoi un climat polaire ? Polaire.
Alors, un climat polaire, rappelons-le, se définit par un froid intense et permanent où les températures moyennes du mois le plus chaud n'excèdent pas les 10 degrés, ce qui veut dire qu'aucune végétation haute, comme les arbres, ne peut pousser. Ces espaces correspondent tout de même à 1/5 de la surface du globe et ce sont aussi des zones où le climat change plus rapidement qu'ailleurs. Et ces dernières années, on peut le dire, ça a été un festival de mauvaises nouvelles. Nul besoin d'en faire la liste exhaustive, tellement les médias ont banalisé la gravité de ces records, tant au niveau des températures que de la fonte des glaces. On retiendra quand même les 38 degrés en Sibérie relevés en juin dernier qui ont marqué le grand public, mais aussi les scientifiques qui annoncent que nous avons atteint un tipping point, comprenez, un point de bascule où il sera impossible de faire machine arrière, ce qui veut dire que sur la partie arctique, nous entrons dans un climat radicalement différent par rapport à celui que nous avons connu jusqu'à présent.
C'est extrêmement inquiétant, préoccupant. On peut déjà en mesurer les répercussions très concrètement ?
Alors oui, déjà dans le dictionnaire, ce sera difficile à l'avenir de parler du froid polaire si celui-ci ne se manifeste plus. Et dans les faits, cela veut dire que certaines régions de l'Arctique pourront être arrosées par la pluie tout au long de l'année et que la banquise estivale ne réapparaîtra plus du tout, avec toute la faune qui en dépend d'ailleurs. Des répercussions qui vont aussi plus loin. Les pôles, ne l'oublions pas, sont des régulateurs, des stabilisateurs du climat mondial. Si le froid polaire venait à quitter la Terre, c'est toute la machine climatique qui risquerait de se gripper et redéfinirait alors nos conditions de vie sur cette planète.
Voilà, le climat qui se réchauffe et qui change à ce point qu'on ne peut plus parler de climat polaire dans l'Arctique. Notre planète, chaque matin, avec vous Fanny Agostini. Merci, à demain. Laurent Cabrol, on n'en est pas du tout au froid polaire non plus aujourd'hui.
Non, moi je suis au climat scolaire. Tiens, le climat de tous ceux d'entre vous, chers amis, qui amènent leurs enfants à l'école ou qui les habillent pour l'école. Attention aux orages. Les orages seront là aujourd'hui. Déjà, ils sont présents vers Nîmes, Avignon, Lyon, Marseille, Brive, Chambéry, ou des nuages orageux ou des orages qui éclatent, mais ils vont éclater avec des régions particulièrement concernées. Tout le sud-ouest, le massif central, le Poitou-Charentes, la région lyonnaise, le delta du Rhône, la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes et le massif alpin. Nous sommes là dans toutes ces contrées sous un ciel très agité qui le restera toute la journée. Ce sera un peu plus calme sur la Bretagne, la vallée de la Loire et le Berry, et même ensoleillé sur la Normandie, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et la région parisienne. Tout
merci.
À l'heure, je... Oui, merci, ça y est, j'ai fini, rassurez-vous. J'ai 15 secondes, j'en fais 16. Allez, on me donne 21 à 27 degrés, telle est la température maximale.
À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue à vous tous dans le 5-7 d'Europe 1. Tout de suite, un nouveau journal avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h30.
Là, il y a la tristesse, c'est les premiers jours, mais après, il y aura la colère des salariés. Mais sachez que ça, on ne pourra pas le retenir. Et on ne retiendra même pas, ça, je vous le dis. Et s'il y aura le feu, ben, il y aura le feu, je vous le garantis.
Ils sont déterminés à se battre. Les salariés de Bridgestone ne se voient pas condamnés si vite. Le soutien public affiché hier pour l'usine de Béthune relance un peu leurs espoirs. 25 milliards d'euros pour la recherche française. Le chèque est inédit, mais il est largement étalé dans le temps. Controverse sur un projet de loi censé structurer la science française pour les 10 ans à venir. Et puis Strasbourg est-elle capitale européenne de la démocratie ? La nouvelle maire de la ville refuse ce titre et les 10 millions d'euros qui vont avec.
Les laboratoires au bord de la saturation face aux demandes de tests. Comment désengorger ? Mon invité ce matin propose une solution radicale. Abandonner tous les prélèvements qui ont plus de 4 jours au risque de laisser passer des cas positifs. Je pose la question à Jean-Claude Azoulay du syndicat national des médecins biologistes. Il est mon invité dans 10 minutes. À suivre aussi votre revue de presse internationale et l'innovation d'Anis Mbida. Bienvenue à tous. Bon réveil, 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils n'ont pour l'instant obtenu qu'une contre-expertise. Mais les salariés de Bridgestone à Béthune s'accrochent à cet espoir et à la mobilisation affichée par les politiques. Les 863 employés attendent aussi les scénarios alternatifs que pourrait étudier le groupe japonais. Il reste donc maintenant à attendre au moins 2 à 3 semaines. Lionel Gougelot.
Bien sûr, Bridgestone continue de penser que la fermeture de son usine de Béthune est la seule façon pour le groupe de rester compétitif en Europe, mais les dirigeants semblent vouloir maintenant laisser la porte entrouverte au dialogue, à la recherche de solutions industrielles pour le site, un espoir auquel s'accrochent les salariés.
Au départ, ils ne voulaient pas avoir de discussion, c'était on ferme, point barre. Là, je pense que la mobilisation de tous les élus du gouvernement a fait qu'ils vont peut-être revoir leur copie.
Bien sûr qu'on veut y croire. Moi, ça fait 27 ans que je travaille là. Mon père a travaillé là. On veut encore y croire. Mais il faut mettre de l'investissement. Il faut nous les laisser travailler.
Nous, le but, c'est pas donner de faux espoirs, mais dire pour l'instant, ça avance dans le bon sens.
Les salariés vont devoir attendre encore 2 ou 3 semaines pour connaître les véritables intentions de Bridgestone. Mais attention, la tension monte et pas question de se laisser mener en bateau, disent les syndicats.
On cassera pas les machines. On continuera l'activité. Après, si on doit allumer le feu, c'est nous qu'on allumera le feu. Et c'est nous qu'on appellera les gens.
Là, il y a la tristesse. C'est les premiers jours. Mais après, il y aura la colère des salariés. Sachez que ça, on ne pourra pas le retenir et on ne retiendra même pas, ça je vous le dis. Et s'il y aura le feu, ben, il y aura le feu, je vous le garantis.
Des syndicats qui disent observer de graves situations de détresse parmi les ouvriers. Et selon eux, ce ne sont pas les 2 psychologues mandatés par la direction qui y changent quoi que ce soit. Béthune, Lionel Gougelot, Europe 1.
L'épidémie qui a fait 53 morts de plus hier en France. Le niveau d'infection de la population est équivalent à celui de début mars selon les échantillons des eaux usées analysées dans une 60aine de stations d'épuration.
Par ailleurs, le taux de positivité des tests continue d'augmenter peu à peu, 5,9% désormais. Les universités se mobilisent pour limiter la propagation de l'épidémie parmi les étudiants. Il y a notamment ce centre de dépistage éphémère à Cergy que Diane Berger est allée observer pour Europe 1.
Allez, 10 secondes, c'est terminé.
Quelques secondes pour le prélèvement nasal, devenu une habitude chez Clara. C'est déjà le troisième test pour cette étudiante de 20 ans. Depuis sa rentrée, elle a côtoyé plusieurs cas positifs au Covid en classe et en soirée.
On n'a pas coupé toutes nos relations sociales comme on a pu le faire pendant le confinement. Si on est à une soirée, on ne va pas porter notre masque toute la soirée. Donc c'est vrai que c'est une prise de risque. Et après, si j'apprends que j'ai été dans le même endroit que quelqu'un qui l'a, de moi-même, je me reconfine et machin truc.
L'étudiante n'a donc pu finalement assister qu'à un seul cours en 3 semaines. Et devant ce centre de dépistage à 2 pas de l'université, Alexia, elle, se sent obligée de se faire tester à cause des heures passées dans des amphis bondés.
Dans ma classe, on est dans un petit endroit sans fenêtre, on met la clim et il y en a qui enlèvent les masques et on est tous les uns à côté des autres, donc tout le monde ne fait pas spécialement attention à ça.
300 étudiants sont dépistés ici chaque jour depuis une semaine pour éviter de développer des foyers de contamination. Le temps d'attente a été réduit au maximum, voilà de quoi motiver Anaïs.
J'ai reçu un mail de la fac et les réseaux sociaux qui m'ont montré que les délais étaient de 48 heures et que c'était gratuit et c'était pour les étudiants et j'ai fait une queue de même pas 20 minutes, donc c'est pratique.
Des résultats dans 2 jours, ça lui permettra de savoir vite si elle peut rentrer voir sa famille en toute sécurité.
Et quelle stratégie pour le dépistage et comment désengorger les laboratoires? On en parle avec mon invité juste après le journal. C'est un projet de loi censé donner un cap à la recherche scientifique française pour les 10 ans à venir, mais il est fortement contesté.
Il est arrivé hier au Parlement. Alors on a vraiment besoin ce matin des précisions pour Europe 1 de Virginie Riva sur ces 25 milliards d'euros que le gouvernement met en avant, mais qui ne vont pas arriver si vite.
C'est le plus grand mouvement d'investissement en faveur de la science depuis la fin des années 50.
Discours solennel de la ministre Frédérique Vidal hier dans l'hémicycle, alors que dehors, au même moment, sur la place du Palais Bourbon, les chercheurs criaient leur défiance. Le gouvernement programme de consacrer 25 milliards d'euros au budget de la recherche sur 10 ans. Le but, éviter que la France ne décroche dans la compétition internationale. Mais les chercheurs n'y croient pas. Pour eux, c'est faire peser les plus fortes dépenses sur les prochains gouvernements. Le texte est pourtant alléchant. Il prévoit une amélioration substantielle des salaires, alors que depuis 20 ans, les inscriptions en doctorat ne font que chuter, la carrière attirant de moins en moins. Le texte garantit également plus de 5000 postes, trop peu pour faire face à l'afflux d'étudiants, rétorquent les universitaires. La philosophie de la réforme est en cause. Le texte prévoit la création de chaires de professeurs juniors, des jeunes docteurs pouvant espérer après des années, 6 maximum, devenir professeurs s'ils font leurs preuves. Une véritable précarisation des carrières pour le corps enseignant. Dans l'entourage de la ministre, on reconnaît qu'on s'adresse à un public ultra exigeant qui a souffert de décennies d'incurie.
Sur le papier, c'est une récompense. La ville de Strasbourg, labellisée capitale européenne de la démocratie. Mais ce titre est nouvellement créé. Il est remis par une fondation privée. Alors, peu importe les 10 millions d'euros attribués avec ce label, la nouvelle maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, demande des éclaircissements. Et on va le voir avec ce reportage d'Arthur Mbaché. Ce refus poli suscite la polémique.
Le plus violent dans cette histoire, c'est l'incompréhension.
Je n'ai pas compris.
L'opposition unanime, la droite et la gauche, consternés, tout pareil, par la décision de la maire écologiste, Jeanne Barseguian, manifestement pas emballée par le label Capitale européenne de la démocratie et les 10 millions d'euros qui vont avec ses ex-adversaires au municipal, Catherine Trottmann et Alain Fontanelle.
C'est un label qui est soutenu par la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, qui est soutenu par la Commission européenne.
Je n'arrête pas d'avoir des messages et je dirais les partenaires qui ont toujours soutenu Strasbourg s'interrogent et sont pas mal consternés.
Il y a une logique de décroissance. Finalement, s'il y a moins de visiteurs, s'il y a moins de rayonnement de notre ville, c'est conforme aussi au projet politique. J'attends des explications.
À aucun moment,
la maire nous explique qu'elle n'a pas dit non au label, mais plutôt oui, si.
J'avais demandé aussi qu'on puisse avoir des éléments plus transparents sur les financements qui ne sont pas des financements européens, mais qui sont bien des financements privés.
On a eu le Tour de France à Lyon, le Sapin Noël de Bordeaux. Voilà votre polémique à vous.
Bon, les polémiques autour des verts, non, c'est bon. Merci.
Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et voilà pour conclure ce journal signé François Geffrier. Le prochain journal avec Hélène Zélani et Mathieu Béliard à 7h. À tout à l'heure.
Europe 1.
Il est 6h38 sur Europe 1 et j'accueille l'invité du 5-7 ce matin. Bonjour Jean-Claude Azoulay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans le studio d'Europe 1. Vous êtes le vice-président du syndicat national des médecins biologistes. Comment désengorger les laboratoires assaillis par les demandes de tests? Vous faites une proposition choc. Laissez tomber tous les prélèvements qui ont plus de 4 jours, vous allez nous expliquer dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1. L'invité du 5-7 est donc ce matin le vice-président du syndicat national des médecins biologistes, Jean-Claude Azoulay. On sait les laboratoires sont débordés, les délais s'allongent pour les dépistages. Vous dites qu'il faut remettre tous les compteurs à zéro. Qu'est-ce que vous proposez très concrètement?
Notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes totalement engorgés. Tous les laboratoires ne sont pas au même niveau, mais La moyenne du retard pour rendu de résultat est de l'ordre d'une semaine. Certains le rendent au bout de 48 heures ou 72 heures, d'autres au bout de 10 jours. Il faut absolument qu'on se remette en place pour pouvoir rendre des résultats en 24 heures. C'est indispensable pour pouvoir lutter contre l'épidémie et éviter une reprise de cette épidémie.
Et donc vous vous dites qu'il faut carrément écrémer tous les prélèvements qui ont été faits, ceux qui datent trop, ben on les analyse même plus, on laisse tomber ?
J'ai voulu jeter un pavé dans la mare pour attirer l'attention. Je ne suis pas, bien sûr, en faveur d'une position aussi radicale. Je suis médecin et je considère que les patients ont droit à des réponses à leurs interrogations. Pour ça, je propose des solutions. La première, c'est que tous les résultats de plus de 4 jours, effectivement, il me semble inutile de les faire, mais pour ça, je propose une proposition pour ces personnes-là qui ont fait la queue, qui se sont fait prélever, etc.
Oui. Et qui attendent la réponse.
Voilà, qui attendent la réponse. Au bout de 10 jours, ça ne sert à rien. Je propose qu'ils fassent partie de prioritaires de catégorie 2, après les prioritaires qui sont les symptomatiques, les Covid, etc., pour bénéficier, s'ils le désirent, s'ils ont toujours des signes, d'un test RT-PCR rapide en 24 heures qui permettra de remettre les pendules à l'heure. Mais tant qu'on va regarder derrière nous et réaliser chaque jour les prélèvements qui ont été faits 4, 5, 6, 7 jours avant, on ne pourra pas réagir à l'épidémie.
C'est-à-dire qu'on court après l'épidémie, mais on a beaucoup de retard aujourd'hui.
On a beaucoup de retard parce que la demande a été excédentaire, a été très 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 forte. On a essayé de suivre. On est passé quand même de zéro test en mars à plus d'1,2 million aujourd'hui par semaine dans toute la France. Il y a eu un effort considérable, mais les demandes ont été encore plus supérieures. Donc il faut arrêter cet emballement.
Mais ça veut dire quoi ? Qu'il faut faire moins de tests ? C'est-à-dire, après avoir dit on ne fait pas assez de tests, aujourd'hui on en fait trop ? C'est ça que vous dites ?
Il faut hiérarchiser les tests. C'est-à-dire qu'il faut prioritairement faire des tests pour ceux qui en ont vraiment besoin. Des patients symptomatiques, il est indispensable d'avoir un test avec une réponse dans les 24 heures.
Alors ça, c'est ce que tout le monde dit, mais on a l'impression que ça n'arrive jamais. Pourquoi ça ne se fait pas, cette priorisation ?
C'est en train de se faire. On a été débordés. Vous savez, c'est une crise extrêmement compliquée à gérer. On s'est trouvé face à un raz-de-marée de demandes. On a été obligé de se mettre en ligne. Des difficultés d'approvisionnement de machines, des difficultés pour les réactifs. Il y a eu tout un tas de goulets d'étranglement contre lesquels il a fallu lutter et s'organiser. On y est maintenant, puisqu'on est un des pays dans lequel on peut faire le maximum de tests. 1,2 million par semaine, c'est énorme. Mais il faut les hiérarchiser. Il faut vraiment qu'on les utilise à bon escient. C'est pas la peine de se faire tester si on n'a strictement rien, si on n'a rencontré personne, si on ne voyage pas, si on reste chez soi. C'est pas la peine de prendre le risque de faire une queue pour ça.
Est-ce que les laboratoires jouent le jeu ? Quand le gouvernement dit qu'il faut prioriser, prendre les malades d'abord, les cas contacts d'abord, est-ce que les laboratoires jouent le jeu ?
Aujourd'hui, je peux dire que oui. Mais ça a été très difficile. Il y a eu des bagarres dans des queues. On a été obligé de faire appel aux forces de l'ordre, ce qui est inconcevable pour un laboratoire. Certains labos ont été obligés d'embaucher des vigiles pour essayer de canaliser. Tout le monde a ses priorités, mais bon, il faut pas se faire passer en avant les priorités liées à la santé des gens s'ils sont malades.
Est-ce que le discours finalement du gouvernement n'a pas été trop rapide, n'a pas ouvert trop vite les vannes en disant à tout le monde, si vous rentrez de vacances, allez vous faire tester, en disant allez-y tous, plus on testera, mieux c'est. Finalement, c'était la consigne et là aujourd'hui on revient dessus, c'est encore une contradiction.
C'était la consigne, elle a eu sa nécessité dans son temps. Aujourd'hui qu'on maîtrise mieux le flux des tests, aujourd'hui qu'on est en capacité de pouvoir répondre très fortement, il faut le faire de façon plus organisée et prioriser ceux qui en ont besoin.
C'est-à-dire ordonnance ? Avoir une ordonnance, ça permet de passer d'abord ?
J'ai demandé déjà depuis 3 semaines qu'on mette en place les ordonnances et qu'on mette le médecin au milieu de l'échiquier pour pouvoir canaliser les demandes. Et qu'on ne modifie pas forcément la politique du test à la demande, mais dans des créneaux horaires spécifiques et en fonction des capacités dont on dispose pour rendre des résultats dans les 24 heures. C'est vraiment le maître mot. Il faut que les résultats soient rendus dans les 24 heures pour qu'on ait une efficacité maximum.
Et à l'inverse, si on ne peut pas rendre les résultats dans les 24 heures, autant ne pas faire le test et refuser le patient.
Ce que je propose, et ce qui est en train d'être mis en place, c'est qu'on va mettre des créneaux horaires pour les patients que le gouvernement a défini comme prioritaires. Pour ces patients, on aura suffisamment de tests parce qu'on a des capacités journalières de 220 000 tests. Donc, c'est énorme. Donc, on va pouvoir tester ces gens-là. On va pouvoir tester ensuite les patients qui doivent voyager. Ils ont besoin aussi, en justifiant de cette demande, d'avoir un test. Et puis, les autres tests sont réservés à ceux qui peuvent avoir une inquiétude et qui n'ont pas l'occasion de voir leur médecin. De toute façon, dans les barnums installés, par exemple, en Île-de-France, il y aura, en principe, la présence d'un professionnel de santé qui pourra faire le tri si les patients n'ont pas d'ordonnance.
Voilà, c'est tout le défi des semaines à venir, on le comprend, de faire entre guillemets le tri et de hiérarchiser, de prioriser les patients qui veulent se faire tester dans les laboratoires. Merci d'être venu ce matin, Jean-Claude Azoulay, vice-président du syndicat national des médecins biologistes. Bonne journée.
Merci à vous.
6h46 sur Europe 1, le 5-7 continue dans un instant avec l'innovation du jour d'Anissa Mbida.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h49, on écoute Le Monde changer et on regarde vers le futur avec Anissé Mbida tous les matins. Bonjour Anissé.
Bonjour Sébastien.
Alors ce matin, vous avez trouvé la solution pour toutes ceux et toutes celles qui font du shopping par exemple sur Internet, qui ne savent jamais si la taille va leur aller. On va pouvoir essayer des vêtements virtuellement, c'est ça? Alors comment ça marche? On les plaque sur l'une de nos photos?
Exactement, une technologie pour transférer les photos des vêtements d'une personne sur une autre. Alors, donne un scénario classique, vous êtes sur votre téléphone, vous regardez les photos de votre égérie préférée sur Instagram, vous tombez sur une tenue qui vous plaît, donc évidemment vous avez envie de savoir à quoi vous ressemblez dedans, et bien vous cliquez sur la photo, puis vous choisissez n'importe quelle photo de vous, et il va remplacer les vêtements que vous portez par ceux que porte l'égérie. C'est vraiment bluffant, il faut le voir pour le croire, on vous a mis des exemples sur le hashtag Europe 1.
Il faut avoir la même corpulence? Est-ce qu'il faut prendre la même pose sur la photo pour que ça marche?
Non, pas du tout. Pour vous dire, ça marche même sur des vidéos, c'est-à-dire qu'on peut repérer un vêtement dans un catalogue et se voir ensuite déambuler sur ses propres photos. C'est une technologie des chercheurs du Facebook Reality Lab. Ça marche en utilisant des techniques d'intelligence artificielle qui vont séparer le vêtement de la personne avant de tout redessiner. Alors, c'est pas encore tout à fait parfait. Si on prend une photo de soi allongée, il aura du mal à plaquer les vêtements, mais ça marche très bien pour le selfie classique debout devant son miroir.
C'est quelque chose qu'on peut déjà essayer en ligne, là? On peut le faire?
Oui, même si pour l'instant c'est juste un outil de recherche, donc c'est un peu compliqué à utiliser. L'objectif, c'est de pouvoir l'installer après dans les applications d'essayage virtuel des sites de vente en ligne. Mmh. Et comme ce sont des chercheurs de Facebook qui l'ont fait, et qu'Instagram appartient à Facebook, vous devriez pouvoir bientôt essayer des petits hauts de vos influenceurs préférés.
Et donc ça marche, il faut passer forcément par Instagram, du coup, ils l'ont réservé là-dessus?
Non, pas encore, mais on verra, je pense que ça va arriver dans Instagram, certainement.
Merci Anissé, à demain, 6h50. Allez, on va ouvrir notre revue de presse internationale. L'actualité telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous allons d'abord en Grande-Bretagne. Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux à Londres?
À la une de la presse britannique ce matin, la seconde vague de Covid qui sévit en Grande-Bretagne. 4368 nouveaux cas hier et 11 morts. Boris Johnson va annoncer aujourd'hui de nouvelles restrictions et selon la presse, elles seront drastiques. Le Daily Mail titre « Le grand retour en arrière ». En une du Daily Telegraph, le pays à l'arrêt pour la seconde fois. Le Premier ministre devrait imposer un couvre-feu à 22h aux restaurants et aux pubs. Il pourrait aussi interdire aux Anglais de se réunir avec des gens en dehors de leur foyer. Le Financial Times soutient le gouvernement et titre en édito « Des sacrifices sont nécessaires pour stopper une seconde vague ». C'est aussi l'avis des autorités sanitaires du pays qui ont prévenu hier « Si rien n'est fait, il pourrait y avoir 50 000 nouveaux cas ». Et 200 morts par jour d'ici 2 mois.
Merci Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. On retraverse la Manche et on part à Bruxelles. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour Sébastien.
De quoi parle-t-on en Belgique?
Eh bien, de l'absence d'un vrai gouvernement presque 500 jours après les législatives. Francophones et flamands y étaient pourtant presque ces derniers jours avec ce que la presse appelle ici la coalition Vivaldi, l'alliance de 4 familles politiques. Mais tout vacille. La Belgique vient de passer le cap des 100 000 contaminations au Covid. L'État fédéral n'a toujours pas de plan de relance. S'énerve le soir qui dénonce l'ambiance de cour de récré entre partis politiques. Le chef du parti libéral est pointé du doigt, raconte la Libre Belgique, son incapacité à nouer des compromis et surtout sa méconnaissance du néerlandais, langue de la majorité des Belges, l'ont rendu insupportable pour les autres. Hier soir, les deux hommes chargés de la médiation ont voulu démissionner, explique le Standard, mais le roi Philippe a refusé. Il leur a donné 48 heures pour rétablir la confiance.
Isabelle Horry, correspondante Europe 1 à Bruxelles. Et nous terminons notre tour du monde ce matin au Caire. Bonjour Ariane Lavrieux.
Bonjour Sébastien.
À quoi s'intéresse la presse égyptienne?
À la une, on trouve une nouvelle fois des sarcophages, 14, très exactement, dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire. Ce qui est fou, souligne le site Les Rues Égyptiennes, c'est qu'ils sont totalement intacts. Des cercueils en bois, ornés de hiéroglyphes et avec des couleurs encore bien vives. Le militaire à la tête du Conseil des Antiquités n'en a pas dévoilé plus. On sait juste que ces sarcophages ont plus de 2500 ans, mais ce responsable promet aux médias égyptiens de grandes révélations dans les jours à venir. Et oui, parce que l'objectif pour les autorités égyptiennes, c'est surtout d'attirer l'attention des médias et touristes étrangers. Depuis 3 ans, elles multiplient les annonces et conférences de presse sur les découvertes archéologiques avant même d'avoir pu identifier à quel pharaon elles sont reliées. Le quotidien Yom El Sabah nous apprend ainsi que l'annonce de cette découverte à Saqqara a été planifiée en même temps qu'une campagne de pub sur les écrans télé et Internet.
Ariane Lavrieux, correspondante d'Europe 1 en Égypte. Nous étions à Londres, à Bruxelles, au Caire, votre fenêtre sur le monde tous les matins. La revue de presse internationale d'Europe 1. Europe 1. La météo de Laurent Cabrol, le journal d'Hélène Zélani dans un instant. Et Mathieu Béliard, bien sûr, qui s'installe pour le 7-9 qui démarre. A tout de suite sur Europe 1. Il est 6h57 sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain pour le 5-7 avec toute l'équipe dès 5h. On sera là pour vous réveiller tranquillement. Pour l'instant, c'est Mathieu Béliard qui s'installe pour le 7-9. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1 mardi 22 septembre 2020. Écoutez le monde changer.